Avec votre proposition, avec votre permission, pardon, on va commencer. Vous avez vu que c'est un forum sur l'eau, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, on a exaucé les vœux des hydrogéologues de commencer à recharger les nappes d'eau. Bon, voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette journée d'études. Vous savez que chaque année, l'Espace Mendès France, à l'occasion de ces thématiques, essaie d'explorer ce grand thème qu'est l'histoire des sciences et des techniques. Si cette maison, qui est un centre de culture scientifique qui aide à la vulgarisation et à la compréhension des sciences, souhaite depuis longtemps travailler sur les sciences et techniques, c'est pour deux raisons qui nous paraissent essentielles dans une programmation culturelle et scientifique. La première, c'est que cette notion d'histoire des sciences, elle a, sauf exception, beaucoup disparu à la fois de notre culture générale et de nos enseignements. Et puis la deuxième chose, on s'est rendu compte à quel point la mise en perspective historique en termes de contexte de société était indispensable pour comprendre le monde actuel. Et dans cette salle, il y a eu depuis 15 ans toute une série de belles interventions qui permettaient bien sûr tout à la fois de replonger dans l'histoire de nos sociétés, de celles et ceux qui ont inventé, découvert, etc., mais également de mettre en exergue un certain nombre de points de nos sociétés contemporaines qui en fait ont régulièrement été des problèmes réglés par le passé. Voilà. Donc le thème de l'eau, pour nous, il était évident pour deux raisons. La première, c'est que l'Espace Mendès France travaille de plus en plus, avec les établissements scolaires, le grand public, travaille de plus en plus avec les collectivités territoriales. Et dans les compétences des collectivités territoriales, la question de l'eau revient de manière lancinante. Et l'Espace Mendès France à Poitiers, dans son agglomération, ne pouvait pas ne pas se trouver en partenariat avec ce qu'on appelle Grand Poitiers, l'agglomération de Poitiers, pour essayer de traiter tout ça. Donc toute la semaine, vous l'avez peut-être vu dans le programme, nous avons essayé d'offrir au Poitevin toute une facette de présentation de l'eau et de sortir des présentations convenues ou habituelles. Si vous regardez les outils de vulgarisation qu'il y a autour de l'eau à la fin des années 80, début des années 90, vous avez beaucoup de choses qu'on appelle l'eau source de vie, le cycle de l'eau. Donc on est beaucoup dans, comment dire, dans la partie démonstratrice des sciences et pas assez dans la partie analytique. Deuxième point, si vous regardez les programmes de la fin des années 80 sur l'eau, vous ne voyez jamais de sociologues, de géographes, d'économistes, de juristes. Alors tout ça est indispensable pour mieux comprendre cette thématique. Alors la journée d'aujourd'hui que Anne Bonnefoy avait souhaité proposer, et je remercie André Guillaume du CNAM d'avoir coordonné, tricoté, permis que tout ça ait lieu avec vous. Donc André, je vais vous passer la parole. Donc vous remercier pour ce travail, vous remercier aussi de vos contributions aujourd'hui. Ces contributions vont être enregistrées et sans en faire un verbatim, on essaiera d'en tirer un certain nombre d'éléments structurants qui seront repris dans la revue L'actualité Poitou-Charentes que vous connaissez, que nous éditons tous les trimestres. Et si vous ne l'avez pas, on va vous la faire passer à la récréation. Je crois qu'il y a une petite récréation tout à l'heure. Et vous verrez que cette revue nous permet justement de reprendre les points essentiels de journées de réflexion telles que celle d'aujourd'hui. Donc, merci de votre présence à l'Espace Mendès France. Vous construisez à travers vos interventions, vous construisez ce chemin, ce travail que la maison essaie de mettre en œuvre année après année autour de la culture scientifique, d'une culture scientifique la plus complète possible et qui permet d'interroger tous ces problèmes. Donc André, merci encore. Je vous passe la parole et bonne journée à vous.
Merci. Merci beaucoup. Nous sommes là sur le même bateau, c'est pas la même galère. Nous allons donc naviguer sur les rivières et sur les canaux de France et de Navarre et du Poitou. Donc nous sommes, c'est un espèce de bilan historique qu'on fait, c'est-à-dire il y aura des spécialistes des fortifications, des spécialistes des énergies, des spécialistes de l'environnement, etc. Donc on a organisé une espèce de bilan assez total de l'eau dans l'histoire. L'eau dans l'histoire occidentale, françaises, voilà, ça suffit. Et beaucoup urbaines, puisqu'aujourd'hui, quand même, depuis une vingtaine d'années, vous savez que la population urbaine a enfin battu la population rurale, et que donc, voilà, c'est ça. Et donc, nous sommes plus, on peut dire le contraire, c'est des faits. Voilà, donc, voilà mon propos. Alors, je fais un peu un chapeau introductif. Je pense que chacun des intervenants se présenteront. Donc, il y a Paul Benoît, qui est donc l'homme du Moyen-Âge. Voilà, tous les CV sont là. Voilà. Bon, ça a été distribué ?
Non, pas du tout. Non, c'est bon.
D'accord, ok, merci. Donc il y a Philippe Leveau, qui est spécialiste d'histoire donc urbaine et d'histoire de l'eau. Il y a donc Michel Virol, professeur d'histoire à l'Université de Rouen, sur les fortifications. Il y a Michel Blais qui ne pourra pas venir, qui était le spécialiste de l'histoire des sciences de l'hydraulique et du XVIIIe siècle, qui ne pourra pas venir. Frédéric Graber, qui est chargé de recherche au CNRS en histoire environnementale, qui donc est là aussi. Laurence Destel, qui est au CNRS et qui est spécialiste d'histoire de l'environnement et collaboratrice. Et puis enfin... je crois que j'ai à peu près tout dit.
Oui.
J'ai personne.
Il y a Pascal Bruoy.
Ah oui, Pascal Bruoy qui va arriver, donc qui est à l'Université de Tours et qui est spécialiste des armes à la Renaissance, et en particulier qui a fait un très bel ouvrage sur l'histoire de l'escrime et l'histoire donc de. Comment ? Oui, qui va parler de Léonard de Vinci. Et puis moi, je suis professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et j'ai travaillé sur l'eau longtemps. Je me suis pas noyé, mais j'arrive encore à flotter et à nager un peu dans l'eau, mais je préfère le vin, à vrai dire. Hein. Bon, voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, pour commencer cette espèce de bilan, je ne vais pas manger au même râtelier que les collègues qui vont plancher. Je vais faire un espèce de tableau général. Mais je voudrais commencer déjà par voir un peu comment ça se passe dans d'autres civilisations ou comment, à l'origine, très brièvement, comment ça s'est passé. Avant de commencer ici, alors ici, je vais... Il faut faire, comme il a dit. Ok, voilà, ça y est, je l'ai.
Voilà.
Voilà. Oui, s'il vous plaît, merci. Alors, je vais citer deux choses. D'abord, quelqu'un qui est très bien, qui est la reine Sémiramis, la fondatrice de Babylone, et qui avait donc... fait des jardins suspendus de Babylone, évidemment. Donc, voici ce qu'elle écrit. « J'ai contraint les fleuves à couler dans les lits que je leur avais tracés. Je les ai conduits partout où ils pouvaient être utiles. J'ai fécondé la terre stérile par l'eau de mes fleuves. » Donc, c'est moins 2500. Ça prouve que déjà, à ce moment-là, les princes ou les rois pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec de l'eau. Autre témoignage, dans l'ancienne Égypte, la construction et l'entretien des réseaux d'irrigation sont placés sous la responsabilité directe des rois, avec l'aide de Hapi, la divinité du Nil, et Osiris, identifié avec les eaux fertiles des inondations. Les Égyptiens conquièrent la terre avec l'eau. Les travaux commencent vraisemblablement dès le 3e millénaire, sous la première dynastie, par la fixation de la rive gauche, la plus peuplée, tandis que la rive droite est consolidée sous le règne de Sésomé, Sésostris, vous connaissez tous Sésostris, de la 12e dynastie évidemment, qui crée en amont du fleuve l'immense réserve du lac de Méroïs. Ses successeurs aménagent d'amont en aval un ensemble de bassins régulateurs reliés par un réseau de canaux qui maintiennent ainsi une charge hydraulique constante dans les conduites. Troisième pays, en Chine, l'irrigation se développe dès l'avènement du fondateur de la dynastie Han, contemporain de l'Empire romain, Liu Bang, propriétaire d'imposants domaines agricoles dans l'actuelle région de Qingzhou et qui prend le pouvoir en 202 avant Jésus-Christ. Donc, elle bénéficie de ces aménagements, bénéficie de l'efficacité de l'outillage en fer qui se généralise alors. La technique du brûlis est abandonnée, le fleuve jaune est endigué, les canaux sont creusés, des puits forés pour arroser les cultures vivrières dont les hauts rendements facilitent la croissance démographique. La Chine a, en l'an 2 de notre ère, 57 millions d'habitants. En même temps, donc, se mettent en place les instruments d'un gouvernement très centralisé, tandis qu'apparaissent les classes de grands propriétaires fonciers qui prennent la relève des vieilles noblesses, etc., dans la constitution du mandarinat et des traitements fonciers donc, des eaux. Dernier point, en Inde, autre civilisation, l'organisation hydraulique des vallées apparaît au début du 9e siècle de notre ère, avec l'énergique novateur moghol Jawaharlal II, qui établit sa cour non loin du centre actuel d'Angkor. Pour lui, il s'agit idéologiquement de recréer le paradis sur terre, dont l'abondance vivrière tient essentiellement au développement des rizières. Alimentés par les canaux, d'immenses réservoirs sont construits, symbolisant le lac qui entoure Meru, la montagne où vivent les dieux de la cosmologie hindoue. L'eau stockée sert à la bonification de la riziculture jusqu'à l'arrivée des puits de mousson. Le roi, maître des grandes eaux, accomplit les fonctions du dieu, assurer la subsistance de la population. Et aujourd'hui, cette tradition se maintient et se perpétue puisque les magnifiques des plaines de la Khao-Phrasia en Thaïlande sont arrosées par deux immenses barrages portant le nom du roi et de la reine. Voilà, tout ça pour vous dire que, brièvement, que dans d'autres civilisations, donc avant l'Occident, la question de l'eau est une question fondamentale et qui permet le développement de ces civilisations. Et donc, je vais vous dire qu'il se passe la même chose pour notre civilisation. Alors, le bâtiment suivant, voilà, c'est ça. Donc, mon propos, c'était donc de travailler sur... Donc, je le fais en quatre parties. Je vais aller vite. Pour quatre parties sur les eaux stagnantes et courantes. Voici donc un paysage du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle. C'est le fluminum naturel de l'heure, qui est donc une coupe, un barrage, etc. Alors, ce qui est important, c'est que dans notre civilisation, en particulier les villes, vont se développer parce qu'il y a de l'eau. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ville. C'est une chose très importante. Vous avez quelques monticules qui sont un peu miséreux. C'est le cas de Laon. Elle a Laon donc dans l'Aisne, qui est sur un plateau. Effectivement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien du tout. Laon, c'est une préfecture. Voilà, c'est tout. Donc, en revanche, vous avez des villes qui sont très, très importantes. Et vous savez que 80% de nos grandes villes actuellement en France sont issues de l'époque romaine et sont toutes situées donc au bord de l'eau ou à proximité des rivières ou des fleuves. Donc pourquoi c'est important ? Parce que avec l'eau, on se défend. Alors, il suffit de faire donc une ceinture d'eau et de se protéger en arrière. On a un système défensif. Donc facile, naturel. Avec l'eau, on a les questions de transport qui sont donc très efficaces pour transporter pas grand-chose. Par exemple, les cathédrales donc, ou les églises donc, au 10e, 11e ou 12e siècle qui commencent à se bâtir en pierre de taille et ça se conduit par bateau jusqu'au pied donc, de la cathédrale. Donc le transport joue un rôle important. Le troisième facteur qui va se développer plus tardivement, à partir donc, du, euh, du 5e, 6e siècle, c'est l'eau énergétique, c'est-à-dire avec l'eau, on va tirer son énergie cinétique ou l'énergie potentielle pour laquelle donc, on va faire de la mouture, on va faire du blé, etc. Et Paul Benoît en parlera. Et puis, autre facteur très important, c'est le développement artisanal. Donc l'eau permet... donc vous savez que pour faire, par exemple, pour produire un drap ou un kilo de laine ou un kilo de lin ou un kilo de papier, il faut à peu près 500 litres d'eau, c'est-à-dire 300 à 500 fois la valeur du pondéral. Donc 300 ou 500 fois, ça veut dire qu'il faut donc des quantités énormes d'eau. Et en fait, dans l'Occident, non pas à l'époque romaine, mais à partir du 10e ou 11e siècle, il y a donc concentration de la population dans des agglomérations. C'est ce qu'on a appelé l'incastellamento, l'enchâtellement. Et dans cet enchâtellement, dans cette concentration donc, de population, les maîtres, les féodaux, les seigneurs ou les évêques, entre autres, ont fait venir de l'eau donc à l'intérieur de la ville pour y placer donc les métiers, ce qu'on avait appelé les métiers de la rivière, qui sont donc les tanneurs, les métiers du cuir, les métiers de la laine, etc. Et puis enfin, la dernière fonction, qui est en plein renouveau, c'est la fonction alimentaire. C'est-à-dire que l'eau sert à l'alimentation, sert à la nourriture, sert pour les maisons ménagères, etc., sert à se laver. Et on a beaucoup parlé de cette, on y reviendra donc sur cette question, qui est donc la conduite d'eau, faire venir donc les eaux donc dans la ville avec des conduites d'eau, des fontaines, etc., etc. Alors qu'il y a tout un système naturel donc de l'eau, qui sont les puits, qui sont la pluie et les réservoirs, et qui sont donc des réutilisations de l'eau aussi, qui sont très importantes. Enfin, pour ponctuer, donc il y a l'eau loisir qui se développe plutôt à la fin 19e et début 20e siècle. C'est l'eau, c'est les eaux thermales, c'est la plage, le soleil, etc. etc. Donc c'est une partie relativement récente. Encore que si on regarde du côté de la romanité, du côté de l'époque romaine, l'eau, donc les thermes, c'est-à, sont un lieu, à vrai dire, j'en parlerai à la fin, qui est un lieu beaucoup plus politique que de loisir. Mais encore que bon, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces termes romains. Voilà à peu près le bilan. Alors, paysage aquatique. Suivant. Hop. Voilà, c'est ça. Donc la question de l'eau de l'eau courante, de l'eau qui arrive. Donc on a été chercher. Depuis donc le Haut Moyen-Âge, depuis donc, à vrai dire même depuis le Bas Empire romain, les autorités municipales ont été cherchées à proximité, enfin là où il y avait de l'eau. Ils ont été cherchés donc, ils ont tiré donc des canaux pour faire venir l'eau dans la ville avec un double but, même triple but. Premièrement, permettre donc autour de constituer autour d'une ceinture sacrée, une ceinture d'eau protectrice, d'eau éminemment donc sacrée avec des divinités importantes, etc. Donc on va prendre très souvent donc les eaux qui sont des eaux qui sont blanches, parce que les eaux blanches sont des eaux portées par la première fonction indo-européenne, celle du prêtre, qui est la couleur blanche, et de telle façon à pouvoir s'envelopper ainsi donc autour de la muraille d'une ceinture sacrée. Le christianisme, quand il va s'implanter donc au 5e, 4e, 5e, 6e siècle, ça a été très lent, et puis après, à l'époque carolingienne, ça s'est particulièrement développé. Donc le christianisme va récupérer ces eaux-là, va récupérer toute la mythologie autour de ces rivières. Et en particulier, donc, ils vont s'accaparer de cette sacralité qui était celtique ou qui était gauloise pour en faire donc une sacralité chrétienne. Ils vont y placer donc le tombeau des premiers martyrs à proximité de ces canaux. Par exemple, Saint Lucien à Beauvais ou Saint Pierre le Vif à Sens ou Saint Romain donc à Rouen. Chaque ville a son saint martyr et qu'il place donc en amont donc de la cité. Et ce qui va se passer, c'est que le christianisme va jouer un rôle, à mon avis, très important. C'est qu'il va désacraliser les eaux, il va dénouer la sacralité de l'eau pour en faire donc un bien commun. Parce que dans le christianisme, Dieu le Père a fait donc tout pour l'homme, Adam, etc., pour les descendants. Il leur a dit, tu vas travailler sur terre, etc., et je te donne les moyens de travailler sur terre. Et donc, tout le travail de l'homme, c'est de mettre en valeur ce que Dieu a mis sur terre pour pouvoir gagner le paradis. Donc, plus de sacralité. Et donc, par conséquent, donc, on peut y travailler. Donc, à partir du XIIe siècle, la ville va se constituer autour donc de ces eaux. Voici donc ça, c'est Sens. Donc Sens, vous voyez donc ici donc la rivière Lyonne et par là, du côté de la Chaise, par là, il y a les Saint-Philbert, c'est-à-dire les sources de la Vanne. Et la Vanne va servir donc va être pompée par la ville de Paris donc à la fin du XIXe siècle, amenée donc pour alimenter la ville de Paris. Mais cette vanne, qui est une source sacrée importante, va être tirée donc sur 10 km à l'époque du Bas Empire romain pour arroser donc l'enceinte qui date de l'époque romaine. Voici l'enceinte de Sens, qui est la capitale de la Lyonnaise deuxième, donc une grosse agglomération. Et ici donc bien sûr, le premier martyr qui est Saint-Pierre qui est là, qui est donc l'abbaye de Saint-Pierre de Vif, et qui, vous voyez, donc se situe juste avant la ville pour contrôler donc la sacralité. Voici donc la cathédrale, voici donc la ville de Sens. Voici plus important, donc une des villes les plus importantes encore aujourd'hui, qui est Caen, qui est donc créée donc autour de 1025, par là. Voici donc l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux femmes, je crois, par là, c'est ça ? Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Saint-Étienne qui est ici, l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Donc Caen est une ville qui est créée donc, de toutes pièces, à proximité d'un marécage. Donc ici, vous avez donc la rivière Orne qui est ici et dans lesquelles donc, au cours du XIe siècle, on va détourner complètement, assainir complètement ce marécage, qui est donc ici donc une partie calcaire, le marécage qui est là, et vous voyez l'enceinte qui est conçue précisément au ras donc de la partie calcaire, de telle façon à avoir donc un mur solide qui donne donc ici dans un espace marécageux. Et on va placer donc ici sur tous ces canaux. Donc voici des ruisseaux qui s'appellent l'Odon, etc. Sur tous ces canaux, on va placer donc ici des tanneries tout le long, et puis sur la partie la plus courante, donc des moulins. Vous voyez, tous ces petits points sont des moulins. Voilà, il y en a ici, etc., etc. Donc, chose importante, c'est que tout a été conçu dans les années 1060 pour faire venir donc pour canaliser l'Orne jusqu'ici. Et c'est le grand chantier qui a permis donc la conquête de l'Angleterre. C'est ici qu'on fait donc les bateaux qui vont conquérir avec Guillaume le Bâtard, qui va conquérir l'Angleterre et qui va se transformer en Guillaume le Conquérant quand il aura conquis. Voici une autre ville encore province donc en 1250, une ville qui est créée donc vers qui se développe autour des années 1100, avec en particulier les foires de Champagne. Vous avez la colline qui est ici, avec la tour carolingienne, la tour César, et puis des rivières qui sont des affluents de la Seine, qui sont la Voulzy et le Durtain. Enfin, ici, c'est à vrai dire, à l'origine, un vaste marécage où il y a une espèce de gué qui passe ici jusqu'à cette abbaye ici qui est Saint-Ayoul, qui est une abbaye qui a un peu les pieds sur terre et non pas donc dans le marécage. Et toute l'organisation de l'espace va se faire autour d'une richesse un peu comme du pétrole aujourd'hui. Imaginez qu'on trouve des quantités énormes de pétrole, on va le mettre en valeur. Ben là, c'est l'eau. Pourquoi ? Parce que cette eau, cette rivière qu'on va appeler le Durtain, c'est une rivière qui est très calcaire. Le calcaire joue un rôle, l'eau dure joue un rôle très important pour permettre le mordançage de la teinture. C'est-à-dire ça permet donc à la teinture rouge, à la teinture jaune, etc., de s'inscrire, de s'accrocher donc sur la fibre textile et d'avoir donc d'avoir une teinture solide. Donc au lieu d'avoir un pull façon Tati, vous savez que vous achetez pas cher chez Tati et qui vous permet, vous le mettez sur la peau et puis dès le soir vous avez la couleur rouge, la couleur bleue. Là au contraire c'est donc des teintures qui résistent grâce donc à ceci. Et enfin donc les comtes de Champagne, en particulier celui qui s'appelle Henri le Libéral, qui est donc le père de Thibault le Chansonnier. Donc Henri le Libéral, autour des années 1120-1150, va employer un de ses grands maîtres des moulins, qui s'appelle André le Sémantier, donc qui est un personnage qui est connu, etc., qui va faire tous les canaux de Troyes, de Bar-sur-Aube, de Lagny et de Provins, pour permettre donc l'implantation d'un artisanat extraordinaire qui va devenir les villes drapantes. Donc vous avez ici donc on va décaper donc le sol sur à peu près 1 mètre 50 d'épaisseur dans toute cette région là et on va tirer donc ce Durtain, vous voyez, le rue Lambert, le Durtain, etc., pour tracer donc sur cette ville un tissu hydrographique. Et donc dans cette partie-ci vont se mettre donc tout ce qu'on appelle les tiroirs, c'est-à-dire des champs effilés sur lesquels on va tendre les draps pour les sécher, pour les tirer, ce qu'on appelle les tiroirs. Et dans cette partie-ci, ici sur la Voulzy, au contraire, vous voyez donc cette canalisation qui est très rectiligne, hein. C'est très linéaire et tout, donc c'est des parcelles, etc. Donc cette Voulzy va avoir un certain nombre de moulins, donc ce qui veut dire qu'il y a du courant. Et d'autre part, ici, on va placer en particulier les tanneries, le cuir. Donc, richesse province, c'est vraiment le type caractéristique de la mise en valeur de l'eau artisanale, moins énergétique que surtout l'artisanat, pour en particulier tout ce qui concerne donc les villes drapantes. Voici donc Beauvais, autre schéma donc de ville importante du Moyen-Âge. Voici la ville... le castrum, c'est-à-dire la partie de la ville donc, qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est donc... imaginez que la ville romaine soit à peu près de cette configuration-là, qui est une ville ouverte, et la ville se rétrécit donc, au cours du IIIe siècle avec ce rempart qui est alimenté par le canal Gonard, qui est donc un canal qui va chercher donc, des eaux blanches, les eaux du terrain, qui est donc une rivière qui coule, donc est un affluent de l'Avlon et qui est un affluent de l'Oise, voilà, le terrain avec un H. Au cours des années, probablement autour des années 1050-1060, toujours pareil, donc là c'est l'évêque de Beauvais, qui s'appelle Roger, qui est un copain de Robert le Pieux, faisait partie de sa bande de potes, etc. Donc ils ont, Robert n'était pas très à l'aise avec, avec ses voisins, les ducs de Normandie, puis les comtes de Champagne, etc., etc. Donc il a décidé de mettre une petite ceinture de sécurité donc autour de lui, à Beauvais, à Senlis, etc. Et il place donc des énarques, en gros on peut dire, donc Roger de Beauvais, qui va organiser l'espace et qui va tirer donc une partie donc, de ce canal. Il va faire donc des voies perpendiculaires sur lesquelles il va placer donc, vous voyez, des tanneurs et des drapiers. Et dès les années 1050-1060, il y a déjà des disputes entre les drapiers et les tanneurs et l'évêque pour ce qui concerne les usages de la rivière. Donc Beauvais, c'est une des villes les plus importantes et les plus caractéristiques. Vous voyez, le moulin de Saint-Laurent est mentionné autour des années 1020-1030, là-haut. Donc ce qui veut dire qu'il y avait de l'eau à cette époque-là. Voilà, donc pour... regardons maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième partie. Est-ce que je suis dans les temps ?
Je surveille.
Au 43, il va falloir que je... Voilà, donc je ne parle, ça fait suffisamment de bruit. Et Pascal Brioast en parlera certainement. Donc je vais aller vite là-dessus. Mais à partir du 14e siècle, une chose qui est très, très importante, qui va être complètement défigurée des villes, c'est les armes à feu. Ah, c'est vraiment une cata. Toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Donc ces armes à feu, au départ, ça fait beaucoup de bruit. Ça tue autant d'un côté que de l'autre, mais le principal, c'est que ça fasse du bruit, que ça fasse peur. Et donc le système des armes à feu, c'est que ça bouleverse complètement l'art de la guerre. Au Moyen Âge, en fait, on attaque très peu les villes parce qu'on est vite décimé. Pourquoi ? Parce que monter à des échelles, attaquer une ville, etc., par les échelles, ou par c'est très meurtrier. Et donc, on préfère s'attaquer en rase campagne. C'est plus tranquille qu'au bord de la ville. Avec donc les armes à feu, au contraire, la ville devient très accessible. Puisque vous vous placez en face comme ça, ce qu'on appelle batte-brèche, et vous tirez. Donc, au bout d'un certain temps, bon, le mur s'écroule. Donc, vous avez une porte et vous vous engouffrez là-dedans. C'est facile. Et dès que vous avez la ville, vous avez tous les femmes, les évêques, vous avez tout, la bouffe, enfin bon, bref, vous vous installez, vous vous baffrez, et puis vous tuez. Voilà. Alors, donc, et donc la ville devient un lieu de convoitise. Et par conséquent, donc, tout le système pour la ville, pour se sauver, c'est d'augmenter ses fortifications. Et la seule manière d'augmenter ses fortifications, c'est d'élargir le fossé plein d'eau. Donc on a déjà un fossé qui date du Moyen-Âge. Là, on va chercher, prendre de la terre dans le fossé pour l'élargir, et on va le mettre donc pour faire une fortification. Et donc, on va augmenter la capacité. Ah ben voilà, Pascal Brouillard. Donc je me tais puisqu'il arrive. Voilà, je parlais de toi.
Bonjour Pascal.
Voilà.
D'autant mieux que je n'ai pas de toi aussi.
Donc... Du coup, on a autour de la ville la formation d'un espèce de no man's land. Surtout quand le siège est annoncé, on détruit tous les bois, etc. On récupère les bois, on coupe les arbres, on empêche donc, on rase. De telle façon à avoir du haut des remparts un point de vue qui permet de voir le plus loin possible. Et ça va être ce no man's land, il va avoir à la fin du XVIIIe siècle une épaisseur de 1 km autour de la ville. Et vous avez donc ces lieux de silence. Ça, c'est un des faubourgs de Beauvais où il y a donc un abreuvoir, etc., etc. Donc, c'est des lieux de silence. Et voici donc ces larges fossés qui sont énormes. Voici donc à Troyes. Donc, ça n'existe plus. Tout ça, ça a été enterré depuis. Hein. Mais ces plans d'eau qui sont donc ces plans d'eau stagnantes qui ne bougent pas, qui sont silencieuses, qui sont pleins de poissons, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Donc à Amiens, par exemple, au cours du XIVe siècle, on vide les fossés donc une fois par an et on ramasse 2 ou 3 tonnes de poissons qui servent à faire un gueuleton pour les maires, un petit gueuleton, etc. Et ça nourrit les pauvres pendant, on leur donne à manger, là, enfin, les arrête. Voilà. Alors, ça, c'est. Voici Amiens, là, c'est pareil. Donc, Amiens qui est qualifié par Louis XI de sa petite Venise. Donc, vous voyez la cathédrale, etc. Donc, c'est pris du nord, donc des fossés, etc. Vous voyez donc cette quantité d'eau. Alors, pour vous donner un chiffre, disons qu'en gros, en 1250, il y a à peu près donc, la moitié des villes qui ont une densité de canaux comparable à Venise. Et en 1650, c'est les deux tiers des villes françaises qui sont ceinturées d'eau, une densité comparable à Venise. Donc c'est énorme, la quantité d'eau. Alors, chose importante, c'est que l'humidité qui est provoquée donc, par cette de ceinture, etc., va faire proliférer donc, à l'intérieur de la ville, en particulier donc, là où il y a du calcaire, donc c'est le cas de Paris, donc le salpêtre. Et avec ce salpêtre, qui est donc du nitrate d'ammonium, on va donc mélanger avec de la cendre de bois qui est de la potasse, et on va faire donc du nitrate de potassium qui sert d'explosif, voilà, et qui sert à fabriquer de la poudre de canon. Donc je ne vous donnerai pas le secret de la poudre parce que je n'ai pas le droit. Mais en gros, donc, le salpêtre, c'est le sel de pierre, salpetrus. Et donc, plus la ville est humide, plus donc elle produit de salpêtre. Et la ville la plus dense en matière de salpêtre, c'est Paris, qui va devenir donc à la fin du XVIIIe siècle. Donc la France produit à l'époque de la Révolution, fin XVIIIe, à peu près 1500 tonnes de salpêtre par an. C'est nécessaire pour l'armée. Paris en compose le tiers, 500 tonnes rien que pour Paris. C'est la ville la plus dense et la plus pourrie. C'est tellement humide, ça pue tellement que ça fabrique du salpêtre, mais donc il y a cette récolte, etc., c'est salpêtrier. Et donc à Paris, les pierres sont tellement imbibées de pourriture, les pierres de construction, que les salpêtriers vont avoir donc il va falloir avoir un permis de démolir obligatoire pour pouvoir donc obliger donc à récupérer le salpêtre des pierres. Donc c'est le processus industriel ici. Enfin le processus de salpêtre, vous ramassez les cailloux, etc. La pierre, vous la broyez et puis donc vous la faites passer dans des tonneaux. En faisant couler un peu d'eau, etc., et vous récupérez, et puis vous faites donc bouillir ce sel de terre, et vous le faites sécher. Les cristaux sont mélangés avec ce processus de salpêtre. Voilà. Donc battement et roulement. Je vais aller vite tout de suite parce que ça c'est Paul Benoît qui va en parler. Donc c'est les moulins et tout ce qui tourne, etc. Juste quelques précision sur les tanneurs et sur l'importance dans l'histoire d'un matériel pour lequel les historiens n'accordent aucune importance et qui est quand même fondamental, c'est le tonneau. Donc c'est pas parce que j'aime le vin, hein, mais le tonneau, c'est l'instrument de récupération en France qui va servir donc à asseoir la révolution artisanale, la révolution industrielle. Donc le tonneau, il sert à tout. Et il y en a, alors qu'en Angleterre, on fait venir les tonneaux d'Irlande, c'est-à-dire qu'on les paye très cher. En France, c'est gratos. Donc ces tanneries, qui sont donc nécessairement obligées d'être auprès des cours d'eau, parce que il y a le traitement de la peau, qui s'appelle donc, ce sont des fosses à temps, c'est-à-dire qu'on utilise donc de l'écorce de chêne fermentée, etc., qui permet d'assouplir et de gonfler les peaux de telle façon donc à les pouvoir les traiter. Donc c'est un rôle très important. Et donc pour vous dire qu'il faut pour 1 kg de peau, il faut à peu près donc 300 kg d'eau. Ici donc le blanchiment des toiles, ça c'est pas de la laine, c'est des toiles qui est fabriquée avec du lin, etc. Et le blanchiment se fait à proximité donc de la ville, à la périphérie. Pourquoi ? Parce que, en fait, le processus, c'est qu'on met la toile le matin, qui est une toile écrue, et on la fait tremper dans l'eau dans la journée, et donc on la fait sécher pendant la nuit, etc. etc. Donc on met 350 à 450 jours pour blanchir une toile. Il faut un an et demi. Donc c'est très lent. Donc c'est un métier de femme, elle va le matin à la rivière avec ses enfants, elle le ramène, etc. C'est, bon, c'est épuisant, mais bon, c'est gagne petit. Et alors qu'est-ce qui fait que ça blanchit ? Ben, c'est d'une part l'oxydation de la rosée. Donc quand vous mettez la toile sur le pré, vous avez le serin ou donc la rosée, le serin, donc c'est le matin. Non, la rosée c'est le matin, le serin c'est le soir. Donc les gouttelettes d'eau sont chargées donc d'oxygène. Donc l'oxygène va sur la toile, oxyde donc les colorants, enfin, etc. Donc de la toile, de ce qui fait la quantité crue. Et ensuite donc vous passez dans la rivière qui lessive. Voilà, c'est un système long, etc., mais qui joue un rôle très important et qui sera remplacé par l'eau de Javel un peu plus tard. Autre métier, donc vous voyez, donc métier au bord de la rivière aussi, les amidoniers, donc qui produisent donc de l'amidon, qui est important pour le vêtement, etc., pour l'école Jabot, pour bon, tout ce qui est les froufrous et tout. Donc ces amidoniers jouent un rôle très important aussi, et donc travaille avec la fermentation, des céréales, etc. Et donc, ces amidoniers, par exemple à Paris, sont aussi ceux qui dirigent donc les porcheries, parce que avec les ferments donc issus des amidonneries, ça sert donc de nourriture aux cochons. Dernier point donc, les questions des fontaines qui sont importantes. Donc voici des plombiers. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc, sur l'alimentation en eau. En gros, donc, ce qui est important, c'est que déjà donc, au XIIe siècle, à Provins, à Paris, etc., donc la fontaine, le public, etc., c'est un symbole d'urbanité. Donc, la ville qui veut être plus ville que les autres. Donc, au XVIIIe siècle, Lazare Carnot dira « Une ville fortifiée est une ville plus ville que les autres ». Parce qu'elle est plus belle, etc. etc. Au XIIIe siècle, la ville plus ville que les autres, c'est celle qui possède une fontaine. Et cette fontaine, qui est une fontaine, petite fontaine, qui n'a pas beaucoup d'eau, hein, on les appelle les pissottes ou les pisselottes. Mais c'est un lieu symbolique important, un lieu de rassemblement des femmes, un lieu très important dans la société, dans la cité. Cette fontaine va se développer considérablement au XVIIIe siècle. Donc pratiquement toutes les villes ou les petites villes vont vouloir avoir au XVIIIe siècle une fontaine. Donc on va chercher l'eau à la périphérie, dans la colline, etc. On l'amène par tuyau avec une fontaine, donc qui est un lieu qui permet, donc qui est financé par l'intendant général, par le maire, etc., etc. C'est un lieu symbolique très important. Et cette fontaine va se développer au XIXe siècle et au XXe siècle pour l'alimentation en eau. Alors, chose importante, c'est que la consommation d'eau la demande en eau va considérablement donc augmenter au XIXe siècle, au XXe siècle. Donc, pour vous donner quelques chiffres, Paris, donc pendant la Révolution, on estime qu'il ne faut que 7 litres par habitant à Paris. 3 litres pour les soldats de la Révolution. Donc, 1 litre pour la soupe, 1 litre pour la boisson et 1 litre pour se laver. Donc, on ne se sert pas beaucoup, hein. Mais ce sont des chiffres qui sont complètement artificiels. C'est-à-dire que ces 7 litres, ce sont les 7 litres de Paris, ce sont les litres qui sont vendus par les porteurs d'eau. Donc c'est complètement artificiel. En fait, à vrai dire, on récupère considérablement avec ces tonneaux donc l'eau des toitures, donc sur les gouttières, etc. Et cette eau-là, donc c'est une eau claire, qui sert à faire la salade, à faire de l'alimentation, à nourrir, etc. On la boit. Il y a d'autre part l'eau de puits, donc il y a la nappe. Et là, on pompe, on pompe autant d'eau qu'on en rejette. Donc on fait 20-30 litres par jour. Attendez, cette eau-là, elle est complètement pourrie, elle est dégueulasse, elle pue, enfin, elle vous fait la chiasse, etc. Mais ça sert essentiellement pour rincer, pour rincer la vaisselle, pour rincer par terre, pour les métiers, etc. etc. Mais c'est une source, donc ça fait 20 et 20, ça fait 40, hein, 20 de puits, 40 litres. Et puis, vous avez cette eau que vous achetez au porteur d'eau, et puis vous avez les autres usages de l'eau. Par exemple, les amidoniers, leurs eaux, ils les donnent à d'autres amidoniers, parce qu'il y a les ferments qui servent, etc., etc. Donc il y a tout un recyclage de l'eau qui est important. Et alors, donc on va dire que le 19e siècle, dans le positivisme et dans du 19e siècle, dans le progrès de la science, etc., etc., donc on a mis l'accent essentiellement sur cette alimentation en eau, sur les tuyaux. En fait, quand on regarde bien, c'est tout à fait secondaire. Donc aujourd'hui, on est bien content parce qu'on a complètement donc laissé de côté. Mais en fait, tout le 19e siècle, pour des questions essentiellement militaires, d'abord les militaires ne veulent plus avoir... ça ne sert plus à rien d'avoir des fossés pleins d'eau, donc autant les combler. Deuxièmement, les médecins qui disent « attention, l'eau stagnante, c'est dangereux, ça donne la tuberculose, ça donne les moustiques, ça donne le paludisme, il faut enterrer ». Donc on enterre tout au long du 19e siècle. Ça permet d'ouvrir la ville, donc de l'aérer. Ça permet d'y planter donc des boulevards périphériques. Ça permet d'avoir des espaces publics très importants qui vont donner naissance donc aux gares et aux chemins de fer qui vont se planter là, etc. Donc la ville s'ouvre, etc. C'est plutôt un côté positif. Mais l'eau disparaît. Et à la place, on va mettre donc des fontaines, des tuyaux sous conduite, sous pression, parce que l'industrie veut contrôler sous pression. Les ingénieurs, qui deviennent donc les maîtres de la ville, veulent aussi contrôler tout sous pression, sous tuyau, etc. Ils savent mesurer tout ça. Ils savent prévoir. Et l'eau en tuyau, c'est de l'eau prévisible. Alors que l'eau qui court comme ça, là, à la surface, ça inonde, ça déborde, etc. Vous voyez bien les problèmes encore aujourd'hui. Les services techniques sont complètement... tremblent dès qu'il y a un débordement, etc. Donc voilà. Et... dernier point, je finis, mais on en parlera, c'est que les eaux usées, les eaux donc qui se sont usées sur le corps de la ville ou sur le corps humain, etc., il faut bien les éliminer. Donc dans un premier temps, on les laisse passer donc dans le sol, ils s'infiltrent dans le sol, ils percolent jusqu'à la nappe. Et puis donc au 19e siècle, on va donc inventer, donc mettre au point les égouts, les stations de traitement d'eau à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, donc, on a effectivement le problème de la régulation de ces eaux stagnantes et de ces eaux usées, et qui fera aussi donc l'objet de questions importantes. Et voilà. Ah, voilà. Donc, ça, c'est le premier. C'est une toilette. C'est dans les archives de l'école des ponts et chaussées. Donc, c'est le premier dessin. Qui date de 1804, et c'est un super chiotte. Donc vous voyez avec les caractéristiques de la cuvette, etc., etc. Et ça vaut quand même le salaire, un an de salaire d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées. Donc ce qui est quand même ça fait un truc assez cher quand même. Donc c'est cette forme là très importante qui s'appelle le water closet ou la garde-robe à l'anglaise. Comme on dit, c'est donc ça permet. Donc vous faites venir l'eau. Donc il faut avoir une conduite d'eau. Sinon, on ne pouvait pas. Si vous n'allez pas mettre monter avec un bro, etc. Donc vous faites venir l'eau en haut. Et puis vous avez un système de chasse. Alors, donc la grande question donc des ingénieurs dans les années 1805-1810, c'est de savoir comment qu'on fait venir l'eau. Est-ce qu'on fait venir devant? Est-ce qu'on fait venir derrière? Est-ce qu'on fait venir sur le côté? Comment on va y de la cuvette? Est-ce qu'on se tourne comme ceci, comme cela, etc. Donc ça a été des recherches très importantes qui ont été faites par l'école des ponts et chaussées donc, au début du 19e siècle, qui va conduire à donc, un objet tout à fait quotidien que vous avez chez vous. Voilà, j'ai fini. Merci.
je vais me débrouiller. Oui. Faut que je sorte mon PowerPoint d'abord. Voilà. Donc, moi, je suis historien et archéologue de l'époque romaine, et je me suis spécialement intéressé, enfin, entre autres, sujet d'intérêt, aux questions d'hydraulique, donc pour essayer, à partir des données archéologiques, de voir comment on peut utiliser les questions de l'eau dans une perspective historique, à la fois des problèmes de ville, puisqu'on va parler surtout de la ville, et également des problèmes environnementaux, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné le titre à mon exposé, donc qui est « Assurer l'abondance et gérer la pénurie », parce qu'il s'agit donc de présenter la question de l'eau dans les villes à l'époque romaine, en montrant comment, à la lumière des problématiques actuelles, on peut être amené à réviser l'image que l'on a de l'époque antique comme une époque de surabondance de l'eau dans les villes, telle que cela a été traditionnellement présenté. Alors, je travaille en particulier sur un certain nombre d'ouvrages hydrauliques, en particulier sur les aqueducs d'Arles, et ça a été pour moi un terrain d'exercice pour mettre au point, pour réviser un certain nombre d'idées habituellement soutenues sur la relation entre l'eau et la romanité. Alors, il faudrait que je trouve. Voilà. Donc, les aqueducs romains ont été utilisés, surtout au XIXe siècle, après le XIXe siècle, comme la référence une référence d'excellence par les ingénieurs et les architectes. Non, il vaut mieux que je me mette. Comme je parle pas. D'accord. Alors, il y a eu deux manières d'aborder la question. Il y a celle des historiens qui s'appuient sur essentiellement des sources écrites et qui ont envisagé les aqueducs et l'eau sous un angle culturel et administratif. Et donc, il s'agit de montrer comment, à l'époque romaine, il y a des mesures, il y a une grande faveur accordée à l'alimentation en eau des villes, c'est ce qu'on appelle l'évergétisme de l'eau. Et actuellement, ce que l'on peut faire, c'est à partir de données archéologiques, reprendre la question pour essayer d'éclairer ces textes à partir de données archéologiques, parce que les données archéologiques et environnementales permettent de relire ces textes et d'en proposer parfois des interprétations nouvelles. Et en particulier, donc, il s'agit de montrer comment, à partir des traces matérielles, on peut à la fois reconstituer un projet original, celui qui a été des aménageurs qui ont construit ces systèmes hydrauliques, comment ils les ont réalisés et les difficultés qu'ils ont rencontrées, et d'autre part, les modifications qui sont intervenues au cours de la période, puisque cette période romaine, elle dure plusieurs centaines d'années, et il y a à ce moment-là des changements d'usage qui imposent des modifications dans ces ouvrages. Alors, je vais ce que je vais essayer de montrer à partir d'exemples. Donc, au départ, on a, qui justifie ce que j'ai dit au départ, l'exclamation souvent citée de Frontin, qui célèbre, qui a la gloire de la romanité, avec cette phrase, hein, « Aux masses si nombreuses et si nécessaires de tant d'aqueducs, allez donc comparer des pyramides qui ne servent évidemment à rien, ou encore les ouvrages des Grecs, inutiles, mais célébrés partout. » Et donc, je vais montrer comment on peut faire une révision critique de ce paradis de l'excellence de l'eau et donc poser la question de la gestion de l'eau à l'époque romaine. Alors, première chose que je voudrais montrer, bon, c'est d'abord comment, quelles sont les raisons qui justifient, bien évidemment, l'admiration que l'on a pu avoir pour les ouvrages antiques. Alors, j'insisterai sur deux aspects. Donc, la question de la maîtrise de la topographie par les ingénieurs qui ont conçu ces ouvrages, et d'autre part, la question du territoire et donc toutes les barrières juridiques qui ont dû être surmontées pour les réaliser. Alors, d'abord, une image qui est nécessaire d'avoir présent à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est qu'un aqueduc ? Un aqueduc, c'est un canal dont l'objectif est d'avoir une pente régulière pour amener l'eau d'un point à un autre. Et pour cela, en fonction de la topographie, on va avoir besoin de construire des ouvrages d'art. Alors, ces ouvrages sont marqués sur ce schéma. Vous avez soit des systèmes pour réduire et contrôler la pente de l'aqueduc, c'est ce qui est à l'amont. Vous avez ensuite des systèmes pour réguler la pente dans des zones qui sont topographiquement inclinées, en fait, qui sont chahutées. Et donc, ce sont des systèmes avec des puits qui permettent de construire un aqueduc au fond d'une tranchée. Il y a les ponts aqueducs, ce qui, pour beaucoup de gens, représente les aqueducs romains. Évidemment, c'est l'aspect le plus célèbre, qui permet de franchir les vallées. Il y a des tunnels qui permettent de traverser des interfluves. Et d'autres, alors parmi les ouvrages qui permettent de franchir la dépression, vous avez à l'aval un système qui est particulier, qui est connu à cause de Lyon, qui est le système du siphon inversé par rapport au siphon actuel, qui permet donc de traverser des dépressions trop profondes sur lesquelles on ne pourrait pas construire des ponts aqueducs. Et ensuite, on a les ouvrages de répartition de l'eau dans la ville. Alors, je m'appuie sur des exemples. Prenons le cas célèbre de l'aqueduc de Nîmes, donc qui est un aqueduc qui fait 50 km de long, qui prend sa source sur une résurgence, qui est l'Alzon, qui est à 71 mètres environ, et qui, normalement, envoyait des eaux vers le bassin du Rhône. Et le problème, c'est de les amener à Nîmes, qui se trouve 12 mètres plus bas et qui est dans un autre bassin versant, donc ce qui supposait la construction d'ouvrages d'art. Alors, on pouvait avoir le choix entre construire un ouvrage avec essentiellement des tunnels qui n'auraient eu que 20 km de long et qui, dont 10 km de tunnels sous la garrigue de Nîmes, avec la pente qui est la pente normale pour un aqueduc qui est 70 cm au kilomètre, ou bien la solution qui a été adoptée, qui est le parcours que l'on connaît de 50 km avec de grands ouvrages d'art, dont le plus célèbre est le pont du Gard, mais ce qui nécessitait une réduction de la pente et donc des difficultés dans la gestion de l'eau, puisque la pente moyenne de l'aqueduc de Nîmes est seulement de 24 cm au kilomètre. Alors, ça donne lieu à des ouvrages qui sont célèbres, donc le fameux pont du Gard, qui est un des ponts les plus remarquables que l'on connaisse, bon, je ne m'étendrai pas dessus, qui donc a résisté au temps, et donc à titre, pour illustrer cette capacité dont je vous présente les images de la fameuse de l'inondation de 2003, où l'eau du Gardon a monté jusqu'au niveau du tablier de la première arche, mais l'ouvrage a résisté, donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Et ce pont du Gard occupe une place particulière dans l'imaginaire de l'époque romaine, puisqu'il y a donc maintenant, donc illustre des billets de 50 euros, je crois. Et également au XIXe siècle, lorsque l'ingénieur Franz Mayer de Morichet a construit l'aqueduc de Marseille, eh bien, il a voulu, à Roquefavour, construire un pont qui montrait comment l'ingénieur moderne dépassait l'ingénieur romain, parce que ces ingénieurs du XIXe siècle étaient très formés aux lettres classiques, et donc leur référence était les ingénieurs romains, et en particulier les textes de Vitruve, de Frontin. Alors, il y a d'autres ouvrages spectaculaires, donc qui sont ces ponts siphons dont je parlais. L'un des plus importants, c'est le siphon d'Aspendos en Asie mineure, donc avec des tours qui, au milieu, permettaient de relever le cours de l'eau. Donc, un ouvrage remarquable. Mais il y en a d'autres. C'est beaucoup plus fréquent que l'on ne croit. Par exemple, voici en Tunisie un pont siphon, le pont de Douga, qui est moins spectaculaire, mais qui est aussi assez remarquable. Voici donc des photos. Et sur donc le tablier du pont, on avait placé des conduites qui n'étaient pas de plomb, mais là de pierre, qui étaient percées et qui étaient jointes les unes à l'autre et qui permettaient de franchir une dépression. Alors, à côté de ces ouvrages qui sont les mieux connus, les plus spectaculaires, il y a des ouvrages souterrains que l'on connaît beaucoup moins, mais qui sont remarquables. Ces ouvrages sont de deux natures et qui sont adaptés à la topographie. Dans le cas de franchissements de plaines qui peuvent comporter des zones accidentées, on creuse une tranchée qui peut avoir plusieurs mètres de profondeur dans laquelle on construit le canal de l'aqueduc, ou bien lorsqu'il s'agit de véritables collines, lorsqu'on veut aussi changer d'interfluve, passer d'un bassin dans l'autre, comme c'est le cas pour Nîmes, mais d'une autre manière, à ce moment-là, on construit des tunnels. Cela permet de capter des sources dans des bassins versants qui n'appartiennent pas au site de destination. Alors, donc c'est le système des galeries hydrauliques, connu dans le monde grec avec le nom de hyponomoi, et connu dans le monde en latin par specus, puisque specus, contrairement à ce qu'on dit, ne signifie pas spécialement le conduit de l'aqueduc, mais la galerie dans laquelle on va construire un tunnel d'aqueduc. Alors ce système, donc c'est perturé, c'est un système qui est classique, c'est la technique des canas ou des fogara, donc présenté sur une des deux diapositives, et qui aussi est appliqué dans la construction de galeries d'Exor qui apparaît en Italie dès l'époque étrusque. Et voici en dessous un exemple connu qui est l'émissaire du lac Nemi. Donc, on construit une galerie à partir depuis la surface, le cas le plus célèbre étant l'émissaire du lac Fucin. Et dans le cas d'Aqueduc, on a une galerie qui est creusée dans le rocher. Et comme vous le voyez dans la diapositive qui est en haut à droite, on va construire un canal dans lequel va circuler l'eau. Et alors, ces ouvrages, ce que je présente à droite, c'est un exemple qui est de l'aqueduc de Lyon. C'est appelé la cave du curé. Donc et en dessous, ce que je présente, c'est ça vient des aqueducs d'Arles sur lesquels nous travaillons. Alors, certains aqueducs utilisent systématiquement cette technique. Bon, jusqu'ici, ils étaient relativement peu nombreux à être connus. L'un des plus importants, c'est l'aqueduc de Bologne, qui a fait l'objet d'un travail synthétique. Et dessous, je montre quelques-unes des vues qui ont été publiées de cet aqueduc, où on voit donc des restes, des marques de l'époque romaine qui ont servi au nivellement de la canalisation et également des systèmes d'accès à la galerie, donc qui n'étaient pas seulement par des puits verticaux, mais par des escaliers qui ont permis le creusement, d'évacuer les matériaux et ensuite qui permettaient de visiter l'ouvrage. Alors, ces ouvrages donc sont relativement, je disais, mal connus, bien qu'importants. Alors, moi, je suis d'Aix-en-Provence et à Aix, nous avons un tunnel d'aqueduc qui est remarquable, mais qui n'a pas pu être exploré pour des raisons d'accessibilité. C'est un tunnel qui fait 7 km qui permettait de passer du bassin de la Durance dans le bassin d'Aix en passant sous un plateau. C'est un ouvrage qui est connu à partir des travaux du 19e siècle parce qu'on avait envisagé de faire passer à cet endroit l'aqueduc de Marseille dans un des premiers projets, et des explorations ont été faites par des ingénieurs à l'époque pour éventuellement réutiliser le canal romain. Mais bon, il est mal connu. Alors, l'ouvrage auquel je m'intéresse le plus, qui me sert un peu de lieu d'expérimentation, c'est l'aqueduc d'Arles, donc dans les Alpilles, où nous avons quelque chose d'important, enfin un passage important, une question importante de ces techniques de creusement, avec soit des techniques de creusement par une tranchée, c'est le cas au nord des Alpilles vers Saint-Rémy-de-Provence, et c'est le cas dans la traversée de la Croix, et également dans le rebord des Alpilles, Ce que j'ai mis en bleu clair et bleu foncé. Et en rouge, vous avez les passages où l'aqueduc est construit, où le passage est assuré à partir de ponts aqueducs, dont certains étaient très importants, mais qui sont beaucoup moins bien conservés que ceux de l'aqueduc de Nîmes. Alors, la chose qui est intéressante, c'est la traversée de l'Acros. L'Acros, donc, est une plaine subhorizontale qui séparait la vallée des Baux d'Arles et qu'il fallait franchir pour amener l'eau dans cette ville qui a été une des villes les plus importantes du sud de la Gaule. Et donc l'Acros, c'est une surface à peu près subhorizontale, donc constituée de galets, surmontant une couche de poudingue qui fait 1,40 m d'épaisseur. Et dans cette plaine, l'aqueduc a été creusé au fond d'une tranchée qui fait 7 km et qui va jusqu'à 7 mètres de profondeur, avec des cheminées et de regards échelonnés tous les 74 ou 75 mètres, ce qui donc correspond à une distance régulière au niveau de la métrologie romaine. Donc il y avait plus de 80 cheminées et actuellement on en poursuit l'exploration. C'est pour ça que je vous montre cette diapositive. Et donc là, pour cela, donc nous avons procédé à, nous avons prospecté donc la plaine pour localiser les cheminées. Elles ont été positionnées avec un GPS et à la fois au point de vue en XY et également en Z. Et nous avons donc fouillé des puits pour réaliser un nivellement du radier. En effet, une chose importante qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, on ne sait pas très bien comment fonctionnaient ces ouvrages parce qu'il y a un mythe romain de l'excellence des mesures. Cette excellence est vraie, mais il ne faut pas oublier que disposer d'outillage sommaire, qui était une perche avec un niveau d'eau qui permettait des visées, mais qui, évidemment, ne permettait pas d'atteindre une précision idéale. Et il est intéressant de voir quelles ont pu être, dans la réalisation de ces conduits souterraines, des erreurs ou des approximations qui ont été faites et qui ont pu engendrer des débordements ou des défauts de fonctionnement. Ça, c'est le travail de l'archéologue. Et, évidemment, ce travail de l'archéologue est conditionné par les outils dont il dispose. Et pour ma part, je considère que l'utilisation du GPS différentiel permet de revoir complètement, d'atteindre avec le fonctionnement de ces ouvrages, de pouvoir l'établir, de pouvoir niveler véritablement un aqueduc romain, ce qui avant, évidemment, était matériellement quasi impossible. Alors, autre problème qui se posait, que j'ai évoqué à propos des sources, c'est la question de la régulation des pentes qui, en Gaule, est précisément bien montrée par les aqueducs de Lyon. En effet, Lyon donc, disposait de 4 aqueducs, mais ces aqueducs partaient de zones montagneuses et il fallait gérer la pente dans les sources et on ne pouvait pas donc laisser l'eau s'écouler librement. Bon, il fallait des systèmes de régulation. Et donc, les aqueducs de Lyon sont particulièrement intéressants parce que c'est là aussi que l'on trouve des ouvrages de franchissement qui sont remarquables, dont, je disais tout à l'heure, des ponts siphons. Alors, ces ouvrages donc, de dissipeurs d'énergie, donc, ce sont soit des plans inclinés, soit des escaliers, soit des chutes qui ont été étudiés par un ingénieur français qui maintenant est en Australie, qui est Hubert Chanson, donc, qui a montré... donner trois exemples. Donc vous avez en haut un système de plan incliné. À droite, un système de marche d'escalier qui brise l'énergie. Et en bas, un système de puits donc, qui permettait donc, de réguler la vitesse de l'eau dans les canaux. Alors, je donne un exemple. Donc, c'est un exemple qui est inédit que j'avais observé sur l'aqueduc de Lyon, dans laquelle on avait un plan incliné et sur laquelle on avait interposé des systèmes de planches qui brisaient la force du courant, donc au fond des dalles, et des planches transversales donc qui brisaient le cours de l'eau. Alors, actuellement, on s'intéresse à la réalité de la gestion hydraulique de ces aqueducs, en particulier qui pouvaient être réalisées à partir de bassins qui permettaient de découper en plusieurs sections le cours de l'Aqueduc et éventuellement de l'utiliser comme une sorte de citerne pour collecter l'eau et n'a délivré que quand on en avait vraiment besoin pendant les périodes de pénurie. Alors, ensuite, donc, l'Aqueduc arrive dans la ville, et dans la ville, donc, je ne vais pas parler des détails de la ville, mais dans la ville, il y avait, donc, on considère traditionnellement au départ, un système de château d'eau, un castellum aqueum, et ce castellum aqueum est interprété traditionnellement, quand on parle des aqueducs romains, à partir de la restitution qu'en avait fait Perrault. Perrault avait lu un texte de Vitruve considéré comme la référence pour les ingénieurs romains, et il avait montré que, effectivement, ça décrit un système qui est très ingénieux, puisque ça permet de réguler l'eau par une série de bassins et de ne conserver l'eau en permanence que pour l'édifice public, alors que si, en cas de pénurie d'eau, l'alimentation des privés et l'alimentation des bâtiments publics était coupée. Or, ce système était considéré comme illustré par le château de Pompéi que vous avez en bas à droite, donc d'où partaient trois canalisations que l'on considérait comme ayant alimenté soit des fontaines, soit des privés, soit des vices publics, mais qui ne correspond pas avec la réalité archéologique du Castellum de Nîmes. Mais ce système a été réinterprété par des sciences techniques comme un exemple de schéma de distribution rationnelle de l'eau dans la ville. Je pense à l'ingénieur allemand Kretschmer, donc, qui a donc établi ce schéma, donc, qui illustre ce que je vous ai dit, donc ces trois, la manière dont on alimentait trois circuits d'eau, fontaine publique, édifice public, c'est théâtre nymphée, et maison privée, et on pouvait couper l'eau aux privés et aux édifices publics en cas de pénurie. Alors, en réalité, l'application de ce système est complètement démentie par les données archéologiques. Donc Vitruve a certainement conçu ce système, mais il n'a été jamais appliqué parce que il n'avait pas de pouvoir sur les applications. Alors, ensuite, en ce qui concerne le territoire, dans le territoire, donc, il y avait un problème de gestion de l'eau. Et on sait par les textes de Frontin qui nous donnent des textes de loi, mais il y a une grande quantité de textes juridiques qui traitent de l'eau, qu'il y avait des systèmes de servitude qui étaient prévus pour la construction des aqueducs et donc l'obligation pour les propriétaires de laisser les aqueducs passer dans leur propriété. En effet, il existait des aqueducs qui desservaient plusieurs cités. L'un des plus remarquables se trouve en Campanie, c'est l'aqueduc de Bénévent et de Cérino qui est en vert sur la diapositive que je vous présente et qui a desservi toutes les villes de Campanie, donc pour aboutir à Pouzzole qui était un port militaire. Il a desservi également, en particulier entre autres, les villes de Pompéi et d'Herculanum, mais il s'est établi au cours d'une période de l'histoire, donc à partir d'une réorganisation des systèmes hydrauliques dont je parlerai. Autre exemple, sur lequel je reviendrai, le cas de l'aqueduc de Carthage, qui avait un des plus longs aqueducs romains, donc qui avait plus de 120 km dans sa totalité, et qui allait chercher l'eau dans un massif karstique au sud, le Djebel Zaghouan, pour donc alimenter Carthage, qui au deuxième siècle, plus d'un siècle, est la ville la plus importante de l'Afrique. Alors voici cet aqueduc traversé plusieurs territoires, ce qui donc montre comment étaient appliqués les principes dont je vous ai parlé tout à l'heure à partir du texte de Frontin. Alors en fait, l'archéologie permet de montrer que tout cela, tout ce qu'on peut observer maintenant est le résultat d'une histoire longue et complexe. En effet, en dehors de quelques exemples, dont celui de Nîmes, ces ouvrages ne sont pas homogènes. Il y a eu donc des prolongements, des modifications dans le tracé, et d'autre part, une évolution dans la construction de ces ouvrages d'art. que l'on peut essayer de reconstituer. Et donc cela, on peut le reconstituer à partir d'une approche archéologique que maintenant on peut arriver à développer grâce, entre autres, à ces outils nouveaux dont je vous parle, qui sont donc ces outils de mesure. Je faisais donc allusion tout à l'heure au GPS, mais également à l'analyse, en particulier l'analyse des dépôts carbonatés qu'il y a dans les aqueducs quand il s'agit de systèmes qui sont d'origine karstique, parce que les encroûtements des aqueducs permettent de décrire une histoire de l'eau. Et donc ça suppose une collaboration pluridisciplinaire avec les sciences de l'environnement, donc ce qu'on appelle maintenant la géoarchéologie. Donc l'étude des aqueducs est à la frontière entre l'archéologie monumentale, la prospection archéologique et la géoarchéologie. En effet, s'agissant des ouvrages, il est important de reconnaître ce qui peut être des erreurs ou des malfaçons, qui peut être des erreurs de chantier, des erreurs dans la conception de l'ouvrage, des difficultés qui sont liées aux limites de la technologie de l'époque et en particulier des problèmes de nivellement, à des obligations juridiques, à des modifications liées à des changements d'usage et à des réparations. Et donc tout cela, c'est ce qui fait, à mon sens, l'intérêt de replacer ces ouvrages hydrauliques dans le territoire et dans l'histoire longue d'une ville. Alors, réparation d'ouvrages, voilà, je vous présente l'exemple d'une analyse qu'on peut faire sur un ouvrage de l'aqueduc d'A dont je parlais, puisque je vous dis c'est sur cet aqueduc que je travaille actuellement. Donc, on voit que l'orthophoto qui est présentée ici montre qu'il y a une série de modifications, d'améliorations, avec un ouvrage qui était à l'origine en grand appareil, dans de gros blocs, et qui ensuite a été retapé, et modifié, consolidé avec des constructions en maçonnerie. Et on arrive, par l'analyse de l'archéologie du bâti, à en faire l'histoire. Alors, des modifications de tracé. Et là, il s'agit d'un des premiers aqueducs que j'ai eu l'occasion d'étudier il y a maintenant plus de 40 ans, qui était en Algérie, l'aqueduc de Cherchel, où il y a eu des modifications dans le tracé, vraisemblablement parce qu'on n'arrivait pas à faire tenir la canalisation dans des versants qui étaient trop exposés, donc c'est un problème de conception du tracé. Donc on a dû modifier le tracé, et comme ce tracé était raccourci, donc cela a provoqué, donc se posait un problème de gestion de la pente, et donc c'est à cet endroit, donc c'est ce qui est la vue qui est à gauche, sur laquelle on a identifié un système de puits de régulation qui permettait, donc qui ont permis de raccorder la conduite donc qui suivait le flanc du coteau avec le pont qui était nécessairement plus bas puisque on avait supprimé une boucle de plusieurs kilomètres. Alors voilà cet exemple. Donc on voit à gauche la succession des couches et à droite le pont que l'on voit toujours à cet endroit. Alors, dans le cas de l'aqueduc d'Arles, on a un exemple qui est remarquable parce que c'est lié à un changement d'usage. En effet, les aqueducs d'Arles sont connus, en particulier au niveau de l'histoire technique, à cause des moulins de Barbegale, qui, à un moment, ont été datés de la fin de l'Antiquité, donc qui ont une longue histoire. Et les travaux que l'on fait actuellement sur l'aqueduc d'Arles montrent qu'en réalité, la construction de cet ouvrage qui a attiré toute l'attention a été lié à est occasionnel. Donc on a modifié le tracé primitif de l'aqueduc d'Arles qui à l'origine donc était constitué de deux branches qui collectaient les eaux des Alpilles. On a récemment prolongé l'aqueduc au nord pour aller rechercher un nappe d'eau de la Durance. De ce fait, l'eau qui arrivait par le sud donc de l'aqueduc que vous avez à droite, donc devenait inutile et on l'a affecté à ces moulins qui ont duré ensuite pendant un siècle. Et donc on en a administré la preuve par l'archéologie en fouillant à l'amont du pont qui traverse la dépression, donc c'est un sur la photo, un bassin de convergence qui donc illustre ces changements d'usage. Alors, autre problème qui est intéressant, qui nous intéresse plus directement, c'est le problème de la relation avec la ressource hydraulique. Alors, toute l'idée de la surabondance des eaux à l'époque romaine est liée à la place du texte de Frontin sur les aqueducs de la ville de Rome, qui montre une alimentation surabondante et extraordinaire, donc avec 11 aqueducs, qui venaient de 3 secteurs d'alimentation, qui sont les lacs volcaniques du nord de Rome, la zone des monts Albains, qui était quand même une zone volcanique, et les sources de l'Agneau, qui se trouvent au pied du Monte Cibruini, qui fournissait près de 70% de l'eau de Rome. Et il faut voir qu'il s'agit d'une configuration hydrologique qui est exceptionnelle, parce que donc, ces massifs volcaniques avaient été excellents au niveau de la construction d'une réserve, réserve hydraulique, donc il y a des raisons hydrogéologiques, et que d'autre part, les monts Cimbruini, donc c'est un karst qui régularise le cours de l'Agneau et qui est alimenté par des montagnes qui l'hiver sont couvertes de neige et qui sont un système karstique qui régularise tout le débit du Tibre. Donc le cas de Rome est exceptionnel. Donc, Rome n'a jamais eu de problème d'eau parce que donc elle bénéficie de l'hydrogéologie. À côté de ce cas exceptionnel, on a les aqueducs des villes de province qui, eux, avaient beaucoup de difficultés, qui avaient des conditions hydrologiques différentes. Alors, je peux prendre. Il y a un exemple qui n'est pas régional, mais qui est proche de la région, qui est l'aqueduc de Saintes, qui est bien connu. Saintes a été le chef-lieu d'une puissante cité de l'Aquitaine augustéenne. Et on a construit un aqueduc qui ensuite a été rallongé vers l'amont à l'époque flavienne pour chercher de nouvelles sources. Et les archéologues qui l'étudient donc, se sont intéressés au fait que la quantité d'eau qui arrivait par l'amont, finalement, devenait trop importante vers l'aval et provoquait des engorgements. Il y a un problème de gestion de l'eau pour lequel on a proposé de créer des solutions provisoires. Alors, actuellement, cet aqueduc de Seine fait l'objet d'un programme de recherche qui donc devrait reprendre toute la question à partir des techniques actuelles de l'archéologie. Alors, pour illustrer ce problème de la disponibilité de la ressource hydraulique, cette fois-ci moins en rapport avec l'hydrogéologie qu'avec le climat, il y a, je voudrais prendre le cas des aqueducs d'Afrique. Alors, une des raisons pour lesquelles je prends ce cas, c'est que la question de l'alimentation en eau des aqueducs africains a été prise comme un exemple par des modélisateurs du climat qui donc se sont intéressés qui ont voulu comparer la disponibilité hydraulique de l'époque antique avec l'actuelle. Et ils ont pris parmi des critères qui pourraient montrer une aridification du climat la question des aqueducs qui ont été construits et qui, actuellement, ne sont plus alimentés par des sources dignes de ce nom. Donc, ce qui voudrait dire un tarissement des sources, donc une relation, une baisse de la pluviosité. Alors, ça me ramène à l'aqueduc de Carthage, donc Carthage romaine. Bon, Carthage devient, au IIe siècle, la ville la plus importante de l'Afrique romaine. Donc, c'est une grande ville, et elle est considérée comme une des mégapoles de l'époque romaine. Alors, les ressources disponibles, c'était une tranche d'eau annuelle qui varie entre 200 et 600 mm. C'est la fameuse irrégularité climatique méditerranéenne. Il y avait ensuite des stockages, stockage naturel donc, que l'on connaît plus ou moins bien. Il y avait des citernes privées. Toutes les maisons étaient équipées de citernes. Et il y a de très grandes citernes qui sont célèbres, les citernes de l'Amalga, qui ont 42 000 mètres cubes et qui sont une des plus grandes connues dans le monde romain. Et au IIe siècle, la ville s'équipe d'un aqueduc. Alors, cet aqueduc, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il consiste à aller chercher de l'eau dans un massif très éloigné en traversant le territoire de plusieurs cités, c'est le Djebel Zaghouan, parce qu'il disposait de conditions hydrogéologiques favorables. Donc, il était massif élevé qui formait un barrage, bien arrosé, 700 à 800 mm d'eau par an. Et c'est un massif calcaire, donc il constitue une réserve d'eau en pays, ce qui est favorable en pays méditerranéen. mais c'est une réserve d'eau karstique. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir construit un aqueduc au IIe siècle ? Donc, la réponse évidente, c'est pour répondre aux besoins de croissance de la ville. Mais il y a une autre raison qui est de se prémunir contre la variabilité climatique parce qu'il y avait des cycles d'années sèches qui sont connus en Méditerranée qui sont liés à la remontée des hautes pressions sahariennes qui fait qu'on va avoir 200 mm d'eau une année et ça peut durer parfois plusieurs années avant de retrouver une hygrométrie normale qui peut atteindre parfois, approcher le mètre d'eau pendant l'année. Et on a un texte qui explique que quand l'empereur Adrien se rendit en Afrique, la pluie tomba à son arrivée, après 5 années de sécheresse, ce qui lui valut l'affection des Africains. Alors on a beaucoup discuté sur ce texte, que l'on a considéré comme un prodige, mais qui était utilisé par la propagande impériale, construit par la propagande impériale. En réalité, c'est vraisemblablement, on en a la preuve par ailleurs, un témoignage de cette irrégularité méditerranéenne, une période de 5 ans. Ce sont des choses qui arrivent en Afrique du Nord, et donc il y a des cas à Carthage sur lesquels on a de bonnes statistiques pour le 19e siècle et le 20e siècle de la pluviosité. Il y a des exemples qui sont parallèles. Et donc se pose la question, donc on constate que les ingénieurs sont préoccupés de s'adapter à l'irrégularité, à l'irrégularité météorologique annuelle et interannuelle qui elle-même peut être prise dans une grande évolution de l'histoire du climat qui tend vers l'aridification. Alors, donc comme l'histoire et l'Antiquité, pour comprendre, doivent s'appuyer sur des modèles donc, que l'on va rechercher dans des périodes plus récentes, donc je me suis intéressé au cas du sud de la France, et on sait en effet que la période entre 1815 et 1840 a été caractérisée comme une phase de sécheresse, avec des périodes de canicule rares et qui n'ont pas manqué d'avoir un impact sur l'alimentation en eau des villes. Et cela arrive au moment du développement économique de Marseille, quand Marseille s'ouvre comme un port vers l'Afrique française, que la colonisation donc de l'Afrique du Nord. Et on sait que ça a été l'enjeu régional de débat très important. Et entre les villes. Et donc, à ce moment-là, le maire de Marseille a décidé de réaliser, et donc il faut rappeler, il faut citer ce qu'il dit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il coûte, l'alimentation de l'eau de Marseille en amenant par un canal. C'était une question de vie et de mort pour la ville qui avait connu le choléra et qui, en même temps, se développait. Alors, donc ça nous renvoie au problème actuel de la ressource hydraulique en PACA. Donc, qui est conditionné par sa géographie physique et son climat. Et le contraste qu'il y a actuellement entre la population qui est concentrée dans les zones littorales, bon, c'est Marseille, la région d'Aix, qui est la région qui, vous le voyez, est en jaune clair sur la carte, dispose de la moins grande quantité de disponibilité hydraulique. Pourquoi ? Parce que ce sont des massifs karstiques. Alors, ces massifs karstiques sont peut-être de bonnes réserves d'eau quand ils sont bien alimentés, mais ils sont sensibles à l'irrégularité du climat, c'est-à-dire que si vous avez de mauvaises pluies pendant l'automne ou l'hiver, vous n'aurez pas d'eau à la fin de l'été parce que la nappe aura été épuisée. Et la solution qui est adoptée actuellement en PACA, c'est l'utilisation des eaux du bassin d'Adurance qui viennent des Alpes, qui sont alimentées par la fonte des neiges, et qui fait qu'en Provence, nous n'avons jamais de problème de ressources en eau, à la différence de ce que l'on entend pour le reste de la France qui bénéficie d'un climat humide. Et ça me ramène aux aqueducs d'Arles, et un des éléments d'explication que je propose pour les modifications du tracé de l'aqueduc au cours du IIe siècle qui ont conduit à sa prolongation au nord des Alpilles, c'est que cela permettait d'atteindre la nappe de la Durance, ce qui veut dire que, dès cette époque, les ingénieurs romains ont été conscients de cette disponibilité hydraulique et qu'ils ont su avoir une stratégie qui mettait la ville d'Arles à l'abri de ces pénuries qu'elle avait dû connaître pendant un siècle à l'époque du premier tracé de l'aqueduc. Alors, cela m'amène à conclure. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'histoire des actuques romaines sur les questions qui nous préoccupent? Eh bien, au plan de l'histoire des techniques, on peut considérer que les savoirs techniques sont en gros, des savoirs techniques élaborés sont en gros acquis, donc construire des ponts, construire des ouvrages souterrains, etc. Et on dispose à cette époque-là de moyens financiers qui permettent de les mettre à disposition de projets urbanistiques. C'est le fameux évergétisme romain. Mais ces techniques et ces moyens ont leurs limites. Bon, c'est ce que j'ai essayé de montrer, que l'on trouve à partir de l'étude archéologique de ces aqueducs. Mais les quantités d'eau véhiculées par les aqueducs sont conditionnées par la disponibilité hydraulique, donc qui dépend du climat et de la géologie. C'est pour ça donc on doit travailler en pluridisciplinarité avec les environnementalistes. Et cela, évidemment, dans un contexte social inégalitaire qui privilégie les villes au détriment des campagnes et les classes supérieures avec l'alimentation des maisons par rapport aux catégories inférieures. Alors, parfois, donc, des questions que l'on pose, parce que la mode est la durabilité, donc c'est de rechercher dans les époques anciennes des leçons pour une durabilité pour l'avenir. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le modèle romain n'est évidemment pas à imiter pour un projet de développement durable, puisqu'on dit voilà les aqueducs romains comme exemple de développement durable. En réalité, les Romains ont eu les difficultés de gestion qui étaient à la limite de leur capacité technique, mais on a un exemple historique de gestion d'une ressource qui était nécessairement limitée et en fonction des capacités de l'époque. Voilà, j'ai terminé.
Bon, ben voilà un très bel exposé sur les aqueducs. Les aqueducs conduites. Parce que finalement, les canaux qui sont construits au cours du Bas-Empire font partie aussi de ces conduites à ciel ouvert, mais ce n'est pas ce ne sont pas des conduites sous pression et sous siphon.
Bah, à l'époque, non, mais ça, c'était, ouais, les technologies sont acquises après, c'est une question de moyens. À l'époque, à la fin de l'Antiquité, dans certains cas, les villes descendent, il y a une rétraction des périmètres urbains, ouais. c'est une autre histoire. Ouais. Alors après, il y a beaucoup d'autres problèmes de gestion de l'eau, en particulier des débordements des fleuves, etc. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport entre le nombre d'aqueducs et la grandeur de la ville, Rome étant la capitale, et donc on en a le plus, mais est-ce que on peut dire qu'il y a des villes, un peu comme Jacques de Goff avait défini les rapports urbains, donc au nombre d'ordres mendiants par ville?
Non, c'était un rêve que des gens ont eu, donc d'essayer de mettre une relation entre la quantité d'eau délivrée par les aqueducs, l'ombre des habitants, de faire des divisions. Tout dépend aussi des ressources locales, parce que donc moi j'ai parlé de l'aqueduc, il apporte une alimentation de l'eau sous pression, bon, quand on a pour la ville. Mais vous avez tout ce qui vient du bas des villes. Par exemple, si on prend le cas d'une ville comme Arles, donc on ne peut pas imaginer que les gens n'aient pas été chercher de l'eau dans le fleuve, n'est pas dans l'eau du fleuve, et que l'on n'ait pas construit aussi des norias. Bon, ce sont des problèmes de connaissances archéologiques. Bon, on n'a pas de données archéologiques qui le prouvent, mais il est à peu près certain qu'il y avait des systèmes d'élévation de l'eau qui permettaient de compléter. Et parce que, si vous voulez, au niveau des radiations hydrauliques remarquables, il y en a qui sont méconnues, par exemple, s'agissant d'Arles, parce que pour moi, c'est un exemple que je m'intéresse particulièrement. Il y a, dans le Rhône, il y a une canalisation de plomb qui traverse le Rhône, qui passe en souterrain sur 200 mètres dans le lit du Rhône et qui ravitaille la rive opposée. Donc, on se demande comment ils ont pu poser ça. Donc, moi, j'essaie de faire travailler, puis je suis retraité, des collègues ingénieurs retraités, pour essayer de reconstituer à la fois le fonctionnement de cet ouvrage et la manière dont ça a été posé. Mais ce que j'ai voulu dire, ce qu'on peut retirer, si vous voulez, de ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en réalité, l'archéologie permet de renouveler complètement donc les idées que l'on a sur ces techniques.
Voilà. D'accord. Donc ce n'est pas de la géo-archéologie, c'est de la néo-archéologie qu'il faut faire.
Non, enfin, l'archéologie moderne suppose, et par définition, pluridisciplinaire.
Voilà. Ou de l'aqualogie.
C'est une question de Marseillais. Oui. J'ai vu que vous avez beaucoup évoqué la gestion de l'eau autour de Marseille et la problématique du détournement de la Durance, notamment. Oui. Et je me suis toujours posé des questions, pourquoi on avait construit dans des temps récents le canal de la Durance qui mène dans les temps de Berre, qui se jette à Saint-Chamas.
Ah, le canal hydraulique.
Hydraulique. Et alors, avec une bêtise suprême, c'est qu'on a voulu produire de l'électricité à Saint-Chamas avec une chute pas très importante. Et surtout, on a pollué, enfin, entre guillemets, oh oui, les temps de Berre. Alors, je ne sais pas qui a eu cette brillante idée et si vous avez des informations là-dessus.
Monsieur, bon, ça c'est, si vous voulez, alors, pouvez-vous vous rapprocher
du micro?
Donc, il y a un ingénieur, donc, qui était ancien directeur du canal de Provence, Michel Jean, qui donc, a publié récemment un ouvrage sur l'histoire de l'eau en Provence, dans laquelle il reprend toute l'histoire du séchement hydraulique depuis le XIVe siècle, depuis Craponne et avant Craponne, c'était un des premiers. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire, si on a dans le Midi une grande quantité d'ouvrages, peut-être pas plus qu'ailleurs, bon, mais qui ont été utilisés, qui ont été étudiés et qui sont symptomatiques de système méditerranéen. Alors, dans ce que vous parlez, là, bon, je trouve que vous caricaturez le problème de l'étang de Berre, parce que j'ai fait des opérations de recherche sur l'étang de Berre, sur le colmant de l'étang de Berre, et tout le discours est quand même largement un discours identitaire. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on voulait isoler l'étang de Berre à une époque où on manquait de terres agricoles pour le transformer en polder. Voilà, et oui. Bon, donc, si le canal EDF se termine dans l'étang de Berre, c'était décidé au moment de l'équipement hydroélectrique de la Durance, et quelque chose qui est parfaitement logique. Bon, alors ensuite, en ce qui concerne les bouts amenés de la Durance, donc, ils ont été aussi l'enjeu d'utilisation, parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une compagnie qui s'était montée pour combler la croix avec les eaux de la Durance pour réaliser un terroir agricole, donc en utilisant ces bouts. Et ça a d'ailleurs donné lieu, l'origine du fameux foin de croix, des prairies de croix, est liée à la culture de ces bouts de la Durance. Hein, donc, voilà, les utilisations de l'eau voilà, sont complexes.
Pascal.
Oui, moi, j'avais une question de complet ignorant sur les techniques romaines. Comment est-ce qu'on mesure l'altimétrie à l'époque romaine? Comment est-ce qu'on sait que la source est à telle altitude?
Si vous voulez, le problème ne se pose pas comme ça. Parce que le problème, c'est que dans la réalité, on a des ouvrages qui sont nivelés. Donc, ils ont su niveler ces ouvrages. Voilà. Donc, c'est un fait. Ça, c'est le fait. Bon, alors, comment s'y sont-ils pris? Bon. Alors, moi, ce que je peux, la seule réponse, la réponse de bon sens que l'on peut faire, c'est que dans les technologies anciennes, une maîtrise parfaite et un savoir-faire professionnel donc, permet d'utiliser des outils rudimentaires. Et donc, les gens qui, les ingénieurs qui ont travaillé dans des pays en voie de développement, donc, se sont trouvés confrontés à ça. Je pense à des études qui avaient été faites sur la Ferghana, où il y a du fait de la géologie, il y a des canaux qui se trouvent, ça monte et ça descend le sol, des canaux qui sont abandonnés. Et donc, on est des fois très étonné des capacités des sociétés pour construire ces ouvrages. Donc, c'est la même question qu'on se pose à propos de ce tuyau dont je parlais, qui est dans le Rhône. Comment a-t-il été mis? Donc, il faudrait essayer de reconstituer ces procédures.
Les schémas font trompeur. Ils laissent imaginer qu'ils savent que
bien sûr qu'il le savait. Mais bien sûr qu'il le savait. Autrement, il ne l'aurait pas fait. Quand vous avez 12 mètres entre Uzès, la source d'Eure à Uzès et Nîmes, et l'endroit où on va arriver à Nîmes, il fallait bien qu'il le sache. Voilà. Donc ils ont fait des études, ils ont fait des profils topographiques, mais on n'a pas on a aucun texte qui permette de le voir. Mais c'est certain. On peut pas en douter. Pardon.
Je peux peut-être répondre un tout petit peu à cette question. Est-ce qu'au XVIIIe, en fait, ils font encore probablement exactement ce que faisaient les Romains, c'est-à-dire d'abord des reconnaissances visuelles. Ouais. C'est en fait, ils marchent dans le paysage, quoi. Ils voient où est la source en hauteur, et ensuite ils descendent vers l'endroit où ils veulent l'amener, et ils repèrent déjà visuellement l'endroit par lequel ils peuvent le passer. Et ensuite, ils utilisent en fait un instrument qui est donc un niveau, et ils le font vraiment par cheminement, c'est-à-dire ils répartissent la pente dans la descente.
Mais je comprends bien, sauf que quand on est à 75 km, on ne voit pas.
Non, c'est pas
75 km. Non, mais on fait. en fait, c'est voilà, de proche en proche, et surtout, c'est une connaissance quand même visuelle de l'ensemble du terrain. C'est-à-dire, à cheval, ils font, enfin, au XVIIIe siècle, c'est exactement ça qu'ils font. Ils font, il y a pas du tout de, c'est pas du tout sur une carte. C'est vraiment, ils font des allers-retours à cheval pour tester différentes solutions, quoi. D'abord de manière visuelle, et ensuite, ils prennent leur instrument, ils répartissent la pente selon le chemin qu'ils ont choisi, quoi.
On a aussi, on a dans certains cas, mais c'est un problème d'études archéologiques, on a des canaux d'essai. C'est-à-dire, on a retrouvé parfois des canaux qui ont été désordonnés. On ne sait pas ce que c'est, des essais, probablement. Voilà. Donc, on est obligé de raisonner, mais je pense qu'effectivement, les modèles antifausses utilisés, c'est les modèles de l'époque, enfin, des époques modernes, voilà, sur lesquelles on a des textes.
Au XVIIIe siècle encore, ça ne marche pas toujours. Hein. Non, à Beauvais, par exemple, ils vont chercher de l'eau, puis ils conduisent, et puis il n'y a rien. Bon, bah, le petit butin, il fait faillite, il y a un autre qui reprend, qui recreuse, etc. etc. Donc, ça ne marche pas toujours.
Est-ce qu'on est capable d'estimer la durée?
Attendez, il faut que je passe le micro, madame, c'est enregistré.
Alors.
Pardon, répétez, s'il vous plaît, dans le micro.
Oui, est-ce qu'on est capable d'estimer la durée d'utilisation d'un aqueduc?
Alors, je peux vous répondre. On peut, disons, dans le cas des aqueducs qui puisent dans des systèmes karstiques, c'est-à-dire avec des dépôts carbonatés, on peut le faire parce que maintenant, des techniques de datation, on dépend beaucoup des dateurs, les datations permettent de dater les concrétions carbonatées. Donc, dans le cas de l'Agduda, on a travaillé avec une géologue donc, qui a utilisé les variations du magnétisme terrestre sur les cristaux qui sont dans ces concrétions pour avoir des dates. Et c'est par exemple dans le cas de Barbegal, maintenant on a des dates précises qui sont liées à ça, qui ensuite doivent être corroborées par des dates archéologiques. Donc il n'y a pas de vérité absolue, si vous voulez. Mais on arrive à avoir des idées assez précises sur la durée. Alors évidemment, ça dépend, on est très dépendant à ce moment-là des spécialistes qui veulent bien s'intéresser à ces choses. En général, eux, ils s'y intéressent quand il s'agit de l'histoire du climat, parce que les aqueducs, l'hydrologie des aqueducs, peut être un marqueur de la pluviosité, de la disponibilité et des séries de sécheresses. La fameuse sécheresse dont je parle pour l'Afrique, donc elle doit se marquer quelque part dans des aqueducs d'Afrique romaine, mais c'est une recherche qu'il faudrait faire.
Bon, on va passer à l'intervention. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Il n'y avait pas de questions pour André, alors enfin, on a encore... Non ? Vas-y, Pascal.
C'est moins une question qu'une remarque. Merci d'avoir pointé cette idée de la relation entre l'eau et le salpêtre qui m'a ouvert des horizons, parce que enfin, c'est une évidence, mais merci de l'avoir rappelé. Pour le XVIe siècle, il y a une source non exploitée encore, mais je tiens à ta disposition la transcription que j'en ai faite. C'est un manuscrit d'un commissaire d'artillerie qui s'appelle Bénédicte Vassalieu, que tu connais évidemment. Et Bénédicte Vassalieu donne la liste de toutes les villes de France qui doivent fournir quelle quantité de salpêtre. Donc en fait, on peut faire une cartographie de ça. Tu mentionnais le XVIIIe siècle en disant que tu l'avais pour le XVIIIe siècle. On peut le faire pour la fin du XVIe siècle.
Parce que je sais que Beauvais, effectivement, je crois que c'est 130. Non, mais on a le cas de Beauvais où les salpêtriers, qui sont les premiers fonctionnaires qui sont créés. Première fonction publique, c'est corps salpêtrier par François Ier. Et donc, ils sont à Beauvais, ils tirent une tonne trois de salpêtre, donc ce qui est une quantité importante quand même. Oui. Donc Pascal Brioise, qui est donc professeur à l'université de Tours et qui est donc un grand spécialiste des armes, des fleurets, des épées.
Des fleurets, c'est déjà un peu rock'n'roll pour moi. Moi, je suis plutôt dans l'épée à deux mains et dans la rapière.
Donc il y a déjà aussi.
Voilà. Alors j'ouvre mon ordinateur personnel parce que j'espère aller vite de manière à vous montrer un tout petit film 3D, une reconstitution que nous avons réalisée pour une exposition à Romorantin. Je vais avoir l'occasion de vous parler de Romorantin parce qu'on n'en parle pas assez, où il était question justement de techniques hydrauliques. Donc mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler des machines hydrauliques de Léonard de Vinci. Ah oui, j'avais un PowerPoint aussi que je vais mettre séant sur la machine. Juste une petite seconde. Donc mon périphérique est prêt à être utilisé. Voilà. Oui, parfait. J'ai prévu de faire court. Oui, c'est vrai. Mais j'ai spécialement prévu de faire court. Mais pas seulement pour ça, voilà. 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 Donc voilà, mon propos, c'est bien la question des machines hydrauliques chez Léonard de Vinci. Alors, la confrontation initiale du savant toscan avec les techniques hydrauliques eut lieu sans doute dès son jeune âge à Florence. Ce dessin, par exemple, date des années, la fin des années 1470, début des années 1480. Et donc, c'est une image qu'on a dans le Codex Atlanticus. Depuis pratiquement un siècle, en réalité, au moment où Léonard dessine ce genre de choses, les ingénieurs siennois, qu'il faut toujours mentionner quand on parle de Léonard de Vinci, avaient développé des savoir-faire nouveaux afin de répondre, enfin relativement nouveaux, c'est-à-dire que qui reprenait en fait un certain nombre de techniques antiques et donc ce dont nous parlions à l'instant, c'est-à-dire les questions de calcul de pente. On voit ici chez Taccola par exemple l'utilisation de ce qu'on appelle en italien l'archipendolo, c'est-à-dire un niveau, hein, tout simple. Donc effectivement, c'est ce genre de mesure à l'œil, de proche en proche, qui permet d'aller chercher pour Sienne à quelques dizaines de kilomètres de là l'eau pour apporter à Sienne depuis les hauteurs par ce qu'on appelle des bottini. Vous voyez ici un exemple de ces bottini siennois, c'est-à-dire des canaux souterrains, un type de canate amélioré. Vous voyez qu'il y a tous ces bassins pour apporter d'anciennes l'eau dans de magnifiques fontaines qui sont l'orgueil de la cité. Taccola, pour vous donner, il est né en 1382, hein, donc si vous savez que Léonard est né en 1452, vous voyez qu'on est bien des générations auparavant. Alors ce Taccola dont vous voyez ici les dessins, ce n'est pas le seul ingénieur. Ici vous avez un autre dessin de Francesco di Giorgio Martini qui lui a 25 ans de moins que Léonard de Vinci, 25 ans de plus que Léonard de Vinci, pardon, est né 25 ans avant. Ce Taccola est dessiné dans son De Ingenis, des siphons, des aqueducs, des tunnels, des vis d'Archimède et des Noria. D'autres ingénieurs siennois, par exemple Francesco di Giorgio Martini, élaboraient des machines mues par l'énergie hydraulique. Parmi ces machines, des pompes, des soufflets, des scies ou des moulins. Ici, vous avez un moulin. Ici, vous avez, d'après un manuscrit de Taccola, une scie hydraulique d'un côté, et d'après Francesco di Giorgio, la même scie hydraulique ou à peu près de l'autre côté. On verra que Léonard recopie ce genre de schéma. Hein, non, il ne faut pas faire de Léonard l'inventeur de la scie hydraulique, puisque vous voyez qu'on a déjà cela chez ses prédécesseurs. Alors, ces développements technologiques n'étaient pas ignorés des Florentins, puisque on avait, par exemple, depuis le XIIIe siècle, dans ce site de Rémolet, toute une série de bâtiments captant l'eau des Apennins pour alimenter des turbines faisant fonctionner des foulons. André a parlé justement de ces, des tanneurs. Il faut aussi parler pour les textiles des foulons qui sont très importants. On y reviendra, y compris à Romorantin. Là où c'est très intéressant, c'est que ce sont des moulins assez particuliers, puisque ici, ce sont des roues à aube horizontales, c'est-à-dire ce sont des turbines. Donc on amène l'eau dans des turbines très, très tôt. Et Léonard va dessiner d'ailleurs ce genre de turbine. L'architecte Léon Battista Alberti, là encore, on est un tout petit peu avant Léonard de Vinci, dans son De re edificatoria, décrivait quant à lui avec, avec précision la puissance des tourbillons des cours d'eau. Donc Alberti s'était intéressé à cette question de l'hydraulique et de l'hydrodynamique, mais en des lignes plus poétiques, peut-être que scientifiques, qui enflammèrent l'imagination de Léonard. Pour les tourbillons, on sait que jusqu'à la fin de sa vie, jusque dans la période française entre 1517 et 1519, Léonard dessine des tourbillons. Dans sa fameuse lettre à Ludovic Sforza, vous savez que Léonard essaye de se faire embaucher par Ludovic Sforza. Voici. C'est pas grave. Dans sa lettre à Ludovic Sforza, Léonard essaye de proposer un certain nombre de machines hydrauliques, justement. Alors, il faut distinguer pourtant deux types de machines hydrauliques chez Léonard. Des machines actionnées par la force hydraulique, donc je parlerai d'elles pour commencer, et dans un second temps, les machines dont le rôle est de contrôler l'eau. Et là, on va retrouver ces questions d'aqueduc, mais je vous parlerai aussi de compteur d'eau. On pourrait même parler de chasse d'eau aussi, puisque chez Léonard de Vinci, il y avait ça avant les ingénieurs du 19e siècle. Faut dire qu'il y avait déjà ça au 13e siècle chez Al-Jazari. Revenons. Voilà donc la fameuse lettre à Ludovic Sforza. La période où Léonard va s'intéresser de façon maximale aux questions de machines hydrauliques, c'est peut-être la période milanaise, où il est entre Milan et d'autres villes du duché de Milan, particulièrement cette petite ville de Vigevano, qui elle aussi est une sorte de petite Venise sur l'eau. Cette ville nouvelle des Sforza, en 1494, oblige Léonard à se pencher un peu plus sur la question des moulins. Alors on a ça dans le Codex Leicester et dans le Codex EH de l'Institut de France, mais aussi dans le Codex Atlanticus et dans le Codex de Madrid. Donc on a, enfin les deux Codex de Madrid. Donc on a effectivement tout un travail assez complet sur la question, sachant que c'est à peu près l'époque où Léonard a rencontré Francesco di Giorgio à Pavie. Et dans les thèses de Francesco di Giorgio, que je n'ai pas étudié en détail ici parce que faute de temps, mais on peut reconstruire toute une théorie des moulins et toute une théorie de l'optimisation des moulins déjà chez Francesco di Giorgio. Et Léonard poursuit ce cheminement. Ces notes montrent qu'à l'instar de Francesco di Giorgio, voilà donc le duc de Milan, Ludovic le Mort, et son château, le Castello Sforzesco. Voilà des reconstitutions de canaux milanais par Léonard d'Autré. Et voilà, nous sommes ici donc à Vigevano, qui, entre parenthèses, est une ville dont l'urbanisme est assez particulier. Comme c'est une ville nouvelle, c'est une des premières villes où il y a une place publique qui est conçue à l'origine. Dès le XVe siècle comme place publique, juste à côté du château local. Mais non loin de là, vous avez des fermes modèles des Médicis et de leurs hommes, notamment de Galeazzo Sanseverino. Et dans ces fermes, il y a un certain nombre de moulins. Et à l'occasion de ces constructions de moulins, Léonard se pose beaucoup de questions sur l'optimisation de la percussion du courant sur les pales. Et il se pose aussi des questions sur l'usure des engrenages, sur la façon dont on va graisser les engrenages, graisser ou savonner les engrenages. Dans d'autres passages de Léonard encore, on découvre qu'il mentionne des catégories de moulins extrêmement variées. Des moulins prenant l'eau par le dessus, des moulins comme celui-ci prenant l'eau par le dessous, des turbines. Alors il y a un certain nombre de dessins de moulins à turbines, comme celle des Gualquier et de Rémollet, des moulins à grains, des moulins à olives, et puis il y a même, alors il semblerait qu'à Vinci, il ait récupéré, son oncle lui ait donné en héritage, on a retrouvé dernièrement un tout petit document dans les archives d'Empoli qui prouve que son oncle prévoit, alors le nom de Léonard n'est pas mentionné, mais c'est l'oncle chéri de Léonard qui dit, voilà, imaginons que je veuille donner ce moulin à un enfant qui serait illégitime, par exemple. Voilà, donc il y a une clause qui dit ça, bon, on voit bien que c'est de Léonard qu'il s'agit. Et ce moulin en question, qui est un moulin à olives, Léonard entend on a une page du manuscrit B là-dessus, entend le transformer en moulin à broyer les couleurs. Donc là, l'artiste rejoint l'ingénieur. Alors, vous avez aussi dans le manuscrit de Madrid des moulins plus complexes encore, des moulins à machine, par exemple, des moulins actionnant des fileuses, 32 fileuses d'un coup, ou des moulins actionnant des scies automatiques, ou encore des soufflets de forge. Alors ça, c'est plutôt, d'ailleurs, un petit peu plus tard, la réflexion sur les soufflets de forge, c'est quand il passe à Sienne, alors qu'il est au compte de César Borgia. Donc il y a de bonnes chances que ce soit le moment où il rencontre le père de Vanocchio Biringuccio et qui discute des fonderies siennoises. Passons. Dans le Veneto, Léonard s'intéressa encore à d'autres types de moulins qui servent à assécher les zones de marée. Plus tard encore à Romorantin, Léonard imagine d'autres types de machines et propose d'équiper la cité dont il a rêvé de moulins éclusiers qui seraient des moulins à foulon. Donc, on voit que tout au long de sa carrière, ça commence à Milan où il rencontre, où il dit qu'il va discuter avec les maîtres des eaux. Et vous voyez, et jusqu'à la fin de sa vie, quand il est en 1517-1518 à Romorantin. Ici, vous voyez une des pages, par exemple, du Codex de Madrid, où il y a cette réflexion sur l'optimisation des pales de moulins. Ici, en revanche, alors pour le spécialiste de l'époque romaine, ça évoque des choses, ce genre de moulin en série, enfin, en particulier pour le provençal, j'imagine. Là, c'est dessiné par Léonard dans le manuscrit B, donc ce sont des moulins de la période milanaise qui sont indiqués ici. Voilà, type de machine. Voyez que la scie hydraulique dessinée ici par Léonard de Vinci n'a rien de neuf par rapport aux machines de Taccola ou de Francesco di Giorgio Martini. Alors, les moulins, c'est une chose tout à fait importante. Un autre type de... La puissance de l'eau n'est pas toujours asservie à la production artisanale. Elle peut aussi se prêter à des fins esthétiques. Ainsi, en 1506, alors qu'il est chargé d'édifier pour le gouverneur de Milan, qui s'appelle Charles d'Amboise, une résidence somptueuse, Léonard de Vinci s'inspire d'Héron d'Alexandrie et de Vitruve pour pouvoir les jardins de cette villa milanaise, d'une clepsydre géante et d'une fontaine musicale. Alors, Archimède et Héron, alors ça, on le sait notamment par les éditions qui sont faites au XVIe siècle, bien plus tardivement qu'à l'époque de Léonard, mais en fait, des travaux récents prouvent qu'il y a une circulation de Héron en manuscrit dès l'époque de Léonard de Vinci. Ici, c'est tiré de Commandino, un auteur de la d'Urbino de la fin du XVIe siècle. Et vous voyez que chez Héron d'Alexandrie, il y avait l'idée d'utiliser des fontaines pour animer des oiseaux mécaniques. Et justement, dans cette villa de Charles d'Amboise à Milan, il était prévu une fontaine avec des oiseaux artificiels. Voilà. Alors, les clepsydres géantes et les orgues hydrauliques, évidemment, tout ça, ça vient de Vitruve, mais il semblerait que la réflexion de Léonard sur le sujet ait été entamée un petit peu plus tôt, alors qu'il est au service de César Borgia et qu'il arpente toutes les villes de Romagne. Il passe à Rimini, et là, à Rimini, il voit la fontaine qui existe toujours sur la grande place de Rimini, qui s'appelle la fontaine de la pigne, la fontaine de la pomme de pin, et il s'aperçoit que cette fontaine fait des bruits tout à fait curieux. Et il imagine à ce moment-là d'utiliser, ici, vous voyez sa réflexion sur le sujet. Il imagine une fontaine musicale où des tubes différents créeraient des sons différents. Et cette fontaine musicale serait par ailleurs activée hydrauliquement par un jacquemart. Hein, donc, vous voyez, l'eau peut servir aussi à doit servir à des fins esthétiques. Voilà la fameuse fontaine de Rimini dont je parlais à l'instant. Voilà, alors je passe sur Al-Jazari rapidement. Le contrôle de l'eau inspire par ailleurs à Léonard de Vinci une seconde catégorie de machines. On reconnaît pour commencer dans ses notes toute la typologie des dispositifs élévatoires. Je peux peut-être même commencer par ça, même si c'est un texte un petit peu plus tardif. Le contrôle de l'eau, c'est par exemple les compteurs à eau. Une des seules machines dont on est sûr que Léonard l'ait fait construire, on en est sûr parce que on est capable de repérer un échange qui s'est fait entre Léonard et Lorenzo della Volpa. Léonard, à ce moment-là, est en train d'inspecter pour Louis XII les forteresses en Suisse. Et il est du côté de Locarno. Et le texte dit « de la Francia ». Alors, c'est assez drôle de penser que la Suisse, c'est la France à ce moment-là, mais voilà. Et il écrit à della Volpa pour lui donner les plans qui sont recopiés ici. Alors ça, ici, ça n'est pas l'écriture de Léonard de Vinci, c'est l'écriture de della Volpa. Vous avez à droite les références de Léonard de Vinci et à gauche les dessins de Lorenzo della Volpa qui reprennent le compteur de Léonard de Vinci. Alors on peut ce compteur d'eau. Je pense que est-ce que ici. Voilà. Ici, vous voyez un certain nombre de systèmes pour couper l'eau qui sont inventés par Léonard. Et ce sont ces planches-là qui permettent de réfléchir à la façon dont Léonard pensait l'utilisation des fontaines. Parce que l'eau, en tout cas l'eau propre, c'est une ressource. Et une ressource qu'il faut pouvoir partager, d'où la nécessité de ces fontaines. Et je pensais, quand tu parlais de tout cela, je pensais à Salomon de Caux, hein, dont un des grands travaux à Paris, c'est justement cette question de l'économie de l'eau et de la distribution de l'eau dans Paris. Bon. Donc, contrôle de l'eau nécessaire. Et puis, toute une série de machines. Donc, toute une série de machines élévatoires. Alors, celle-là, c'est sans doute une des plus connues. Certaines de ces machines élévatoires de Léonard remontent à une antiquité très ancienne, hein, où Bon, les chadoufs, par exemple, c'est juste un levier. Hein. Les norias, hein, les norias qui sont des sortes de roues à godet. Ici, vous avez une noria, justement, vous voyez, qui remonte l'eau. Voilà. Et puis, qui remonte l'eau dans un conduit. Et puis, encore les vis d'Archimède. Et ici, vous avez... Sur cette planche, on a la chance d'avoir beaucoup de systèmes en même temps. Mais ici, vous avez ces fameuses vis Archimède, sur lesquelles il y a un très bel article de Louisa Dolza, d'ailleurs, je signale. Ces vis d'Archimède, elles posent un certain nombre de problèmes. Tout compte ici, hein, à la fois la pente de la vis, l'entrée de l'eau dans la vis, parce que si on n'a pas une entrée suffisamment large, ça ne fonctionne pas. Et si la pente n'est pas bonne, ça ne fonctionne pas. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de dessins de Léonard de Vinci où ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Voilà. Alors, il y a toute cette question, hein, toute cette question-là, mais j'entre pas dans le détail. Simplement, ce que je veux vous montrer ici sur ce dessin-là, c'est cette petite chose qu'on a en bas ici. Vous voyez, c'est un volant d'inertie. Hein, parce que c'est quand même lourd, si on veut... actionner, vous voyez, avec une simple manivelle, avoir une grosse quantité d'eau. Une fois que l'eau est entrée dans la vis d'Archimède, voilà, le poids est très considérable. Alors un moyen ici, c'est de se faire aider par une vis d'inertie, qui est une grosse meule en pierre en bas, qui utilise donc la force centrifuge pour aider le malheureux qui doit tourner la manivelle. Alors, toutefois, il y a un. Alors, tout ça est finalement assez ancien, il n'y a rien de bien neuf dans tout ça. Il y a en revanche des choses particulièrement neuves chez Léonard de Vinci. Une des. Comment dire j'ai perdu mon. Voilà. Oui, non, j'ai pas parlé mais, de tout ça, mais oui, non, passons. Je préfère insister sur cette question des pompes à double secteur. Parce que là, on a chez Léonard de Vinci quelque chose de très très neuf qui est le résultat d'une pensée qui naît tout d'abord dans l'observation qu'a faite Léonard des dessins de Tacola. Tacola dessinait notamment des trébuchets, et donc des catapultes, donc des objets à dessin militaire. Et Léonard, regardant ces trébuchets, se dit, des trébuchets, vous voyez, qui utilisent un quart de cercle et un fil qu'on tire pour remonter le trébuchet le long du quart de cercle, contrepoids du trébuchet. Léonard va améliorer ce système de plusieurs manières. Il va à un moment avoir une sorte de réca et il va se dire mais je peux transformer encore le mouvement parce que ce qui est important c'est la façon dont un quart de cercle donc qui va être en rotation peut être mis en mouvement par une corde ou mieux une chaîne articulée au quart de cercle qui elle va être en translation et son eureka c'est de transférer l'innovation qui était originellement dans le domaine militaire, de le transformer dans le domaine technique de chantier, en créant une sorte d'excavatrice, qui est assez bien connue, hein, qui a été pensée pour le canal pour justement créer un canal de Cesena à Cesenatico, alors qu'il est au service de César Borgia. Et là, il s'agit de, donc, en tirant sur une corde qui remonte sur une poulie, de faire qu'un levier vienne agripper la terre. Bon, excusez-moi, j'ai un petit peu dérivé par rapport à ça, mais tout ça pour vous faire comprendre que ce qui l'intéresse, je voudrais que vous observiez bien, par exemple ici, parce que c'est le plus clair, vous voyez ce papillon qui est là, et vous voyez qu'ici, on n'a même pas un quart de cercle, d'ailleurs, mais un huitième de cercle. En fait, vous pouvez reconstruire un cercle. Hein. Bon. Ce quart de cercle, vous voyez qu'il est engrené, enfin, qu'il y a des dents d'engrenage. Et ici, vous avez quelque chose qui va bouger en translation, là aussi avec une crémaillère, hein, donc des engrenages de nouveau. Alors comprenez comment ça marche. Ici, on a un contrepoids, donc en fait, c'est un balancier. Vous pouvez le balancer de droite et de gauche. Et donc, à ce moment-là, ça fait osciller le papillon. Et le papillon, dans un premier temps, va faire descendre cet objet en translation. Et en dessous, vous avez des corps de pompe. Alors ça, c'est absolument remarquable, parce qu'on est là dans un principe qu'on va retrouver au cœur des pompes de la fin du XVIe siècle, et surtout des pompes du XVIIIe siècle, et notamment dans la machine de Newcomen. Donc, on trouve dans ces objets-là de véritables trouvailles techniques, hein, mais c'est vraiment à propos de l'hydraulique que ça se passe, des trouvailles techniques qui vont être absolument fondamentales par la suite. Alors, le grand historien des techniques anglais, Graham Hollister Short, a bien montré la filiation, a bien montré par où c'était passé. Il semblerait qu'on voit, parce qu'après Léonard de Vinci, on ne voit plus ces choses-là. On les voit réapparaître fin 16e pour la Samaritaine du pont de Londres. Et alors la question, c'est comment c'est passé. Alors, il se trouve que Morris, le type qui travaille sur la Samaritaine du pont de Londres, est probablement d'origine allemande. Alors, d'après Graham Hollister Short, ce seraient les artisans allemands, comme Giulio Tedesco, qui travaillaient avec Léonard de Vinci, qui ont ensuite fait circuler les idées de Léonard en Allemagne, puis en Angleterre. En tout cas, après, en Angleterre, on arrive à suivre complètement la filière. Mais je trouve ça particulièrement intéressant ici. Autre point, en dehors des techniques élévatoires, il y a le domaine des écluses. Le domaine des écluses, à de nombreuses reprises dans sa vie, l'ingénieur est confronté à des problèmes concrets liés à la gestion des canaux. Alors les canaux, c'est le moyen le plus sûr et le plus économique pour transporter les marchandises. Léonard fait d'ailleurs des calculs de rentabilité d'une péniche. Hein, et donc on voit très bien. Alors sachant qu'il y a quand même concurrence entre les canaux et l'utilisation des canaux pour transporter les marchandises et les bièves de moulins, qui utilisent l'eau pour d'autres activités. Mais toute cette réflexion économique est réalisée par Léonard de Vinci. Alors, Léonard discute beaucoup au service des Sforza, discute beaucoup de ces questions de canaux. Et notamment pour bien comprendre les choses, il faut comprendre que Milan, qui est elle-même une ville sur l'eau à l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce que tu disais, hein, c'est complètement tout a été recouvert ou à peu près, mais Milan était construite sur un réseau de canaux. Et il y avait même autour de Milan un grand canal annulaire, une sorte de périphérique aquatique, hein, qui était relié, comme vous le voyez ici sur cette carte, au Naviglio Grande d'un côté, qui reliait le Milanais au Tessin, d'un côté, et par le canal de la Martesana qui reliait Milan à l'Adda et au-delà au grand lac, au lac de Côme, etc. Et donc c'est vraiment un système économique qu'on a derrière tout ça. Et alors Léonard n'est pas le premier à avoir travaillé là-dessus. Quand il arrive à Milan, il y a déjà une infinité de personnages qui travaillent sur le sujet. Et il discute avec eux. Et il écrit dans ses notes, va donc parler au maître des eaux qui te dira comment faire. Bon. Alors, cela étant dit, comme d'habitude, il absorbe très très facilement les savoirs de ses collègues. Et son grand projet, c'est de travailler notamment sur le canal de la Martesana et de la canalisation de l'Adda. C'est un projet sur lequel il reviendra à plusieurs reprises dans sa vie. Donc combien là ?
Moins de 5 minutes.
Moins de 5 minutes. Oui, bon, c'est bon. Ok. Non, mais ça me va, ça me va. Donc vous voyez, c'est pas inintéressant ces questions de canaux, puisque vous voyez que là sur les écluses, bon, encore un autre dessin d'écluses de Léonard. Vous voyez que les écluses à porte busquée, Elles sont déjà là. Est-ce une invention de Léonard ? Personnellement, j'en doute. Je pense qu'elles étaient déjà là avant Léonard. Une preuve de ça, notamment, c'est que vous voyez, pour diminuer la pression de l'eau, une des inventions des ingénieurs, ça a été de mettre ces marches derrière la porte busquée et derrière le seuil. Hein. Là, on le voit peut-être un petit peu mieux ici. Or, vous avez ça chez des prédécesseurs, notamment chez Francesco Di Giorgio Martini. Donc, on a quelques doutes sur le sujet. Je passe sur l'utilisation des canaux à Milan pour la ville idéale, enfin en tout cas pour le quartier idéal que Léonard aurait construit près du Castello Sforzesco. Autre moment où Léonard se préoccupe pas mal de la question de l'eau et des barrages et des écluses. En 1500, Milan vient d'être pris par les Français, bon bref, et Léonard travaille comme ingénieur pour Venise et va faire toute une série d'expertises sur le fleuve Isonzo. Ce fleuve est menacé parce que c'est par là que devraient arriver les Turcs de Bajazet. Et il se rappellera par la suite qu'il a vu sur le fleuve Isonzo un certain nombre de problèmes. L'un des problèmes, c'est que, bon, vous voyez, le fleuve, c'est un fleuve torrenteux, c'est un fleuve de montagne, particulièrement en hiver, c'est un fleuve dangereux parce qu'il y a ça charrie des blocs, etc. Léonard explique que, regarde ce que font les gens du coin pour les pêcheries. Et imagine... non pas des barrages à aiguilles, puisque la terminologie est qu'André connaît bien, est du 19e siècle, mais des barrages avec des pieux, qui ne sont pas des vrais barrages, mais des barrages qui laissent passer une partie de l'eau, mais qui dérivent quand même une bonne partie de l'eau sans risque d'être défoncé par ce que charrient les fleuves, dérivent une partie de l'eau vers des écluses à sas. Et un petit peu plus tard dans sa vie, Léonard se rappelle que lorsqu'il travaillait sur l'Isonzo, il a inventé, un petit peu plus tard dans sa vie, c'est à Romorantin, sur le fleuve Isonzo, il a utilisé des écluses à ça, c'est-à-dire des écluses avec des petits ventails, un petit peu comme celle-là, des petits ventaux comme celui-là, des ventaux qu'on peut actionner par au-dessus, par un locto, vous voyez là. Alors je passe sur les appareils respiratoires subaquatiques vénitiens, ce qui n'est pas proprement parlé une machine hydraulique. Je passe aussi rapidement sur le travail d'ingénieur S-canalisation de Léonard que l'on retrouve dans le manuscrit L, que voici. Vous voyez que là, il aménage le petit port de Cesenatico, qui est le port de Cesena, qui aurait été la capitale de César Borgia. À cette occasion, il imagine des grandes machines pour creuser des canaux, toujours ici dans le manuscrit L. Un des grands projets dont il faut parler rapidement, c'est la question de la dérivation de l'Arno. Vous savez qu'à la fin du service pour César Borgia, Léonard va travailler pour la République de Florence. Travaillant pour la République de Florence, il a une petite tâche à accomplir, c'est que la République de Florence veut assécher Venise, en tout cas Pise, pardon, veut dériver l'Arno de manière à ce que l'Arno débouche dans un bassin et prive Pise de son lien avec l'arrière-pays. Alors, le travail que réalise Léonard à ce moment-là est un travail assez... est un travail assez, assez compliqué. Alors, il y a deux... ici, il y a deux bonnes références bibliographiques là-dessus. Comme je n'ai pas le temps de développer, je vous les signale. Bon, d'abord, le beau livre de mon camarade Patrick Boucheron sur Léonard et Machiavel, qui développe ça. Plus récemment encore, une très belle thèse d'une jeune docteure qui s'appelle Dora Derrico, qui a travaillé sur la question, où l'on s'aperçoit qu'en réalité, Léonard n'est pas du tout seul sur ce projet. Il y a une douzaine d'ingénieurs. Et Léonard est un consultant parmi d'autres. Mais là où c'est important, on retrouve ce que vous disiez, M. Levaux, le travail essentiel de Léonard, c'est le travail de cartographie. hein, le travail de cartographie, où Léonard montre comment on pourrait faire déboucher l'Arnaud dans certains bassins. J'oublie de dire qu'au passage, Léonard se dit si on dérive l'Arnaud, on doit pouvoir équiper cette dérivation d'un certain nombre de moulins. Et là encore, il y a une réflexion sur laquelle, voilà. Alors, autre machine, vous voyez, pour creuser un canal qui fonctionne sur un rail avec des axes et des brouettes qui montent et qui descendent. Celles qui descendent actionnent celles qui montent et inversement. Donc, une sorte d'économie d'énergie. Dernière étape de Léonard en Italie, un projet pour Louis XII, vers 1506, de canalisation de l'Adda. Ce que j'aurais voulu vous montrer, mais on n'aura pas le temps, c'est cette canalisation de l'Adda impliquait le passage de rochers extrêmement, extrêmement élevés, et ces rochers, Léonard imaginait un canal souterrain pour péniche. Je passe sur les marais pontins pour conclure avec le projet de Romorantin. Le projet de Romorantin, donc voilà, vous savez, il y avait plusieurs châteaux. On a 4 ou 5 plans de Léonard de Vinci qui sont assez qui jurent entre eux, hein, qui ne sont pas les mêmes. C'est la seule élévation qu'on ait. En tout cas, vous voyez que c'est un palais sur l'eau, sur une rivière qui s'appelle la Saudre. Ce plan est assorti d'un commentaire. On voit entre autres qu'il y a des portes automatiques et qu'il y a des toilettes, des water closets. Mais je passe parce que là, il n'est pas vraiment question hydraulique. Il en serait peut-être un petit peu question à propos des écuries géantes de ce palais, puisque ici, c'est tout un système hydraulique qui permet de nettoyer. Vous voyez, il y a le foin qui tombe directement dans les mangeoires et ici un canal qui récupère le purin. Passons. Alors, voilà, donc on s'est amusé à reconstruire les diverses possibilités du palais, mais ça n'est pas mon point de vue ici. Mon point de vue, c'est de reprendre les dessins de canalisation qu'a produit Léonard dans le Codex Atlanticus et dans le Codex Arundel à propos de la canalisation de la Sauldre. Alors la Sauldre, c'est la rivière qui passe à Romorantin. C'est une rivière qui est un affluent du Cher, mais c'est une rivière un petit peu modeste. Donc l'idée de Léonard, voilà la Sauldre, là peut-être on comprend un petit peu mieux. Et ici vous voyez quelque chose d'un petit peu étonnant. On a ici le village de Villefranche, et ici un canal qui est curieusement coudé, qui va de Villefranche à Romorantin. Alors pourquoi ce canal ? En fait, pour alimenter en eau Romorantin en amont. On peut revoir d'autres canaux. Voilà. Alors, le canal de faisabilité, puisqu'il était question de canal d'essai, en fait, on l'a retrouvé. On a cherché sur place à quoi ressemblait ce qu'avait dessiné Léonard, puisque le coude, hein, si c'était juste une idée comme ça, ce n'était pas la peine de faire un coude. Donc, s'il a fait un coude, c'est qu'il a vraiment été relevé les choses sur place. Et on a trouvé ce qui correspondait à ça, c'est-à-dire un tout petit ruisseau aujourd'hui, mais qui est très, très régulier, qui est dans une vallée d'ailleurs, elle-même d'un point de vue de la flore, extrêmement particulière. Donc il y a de bonnes chances que cette vallée ait été artificielle. C'est une vallée qui est juste en amont de Romorantin. Et le but du jeu, c'était effectivement de rejoindre Villefranche et Romorantin. Léonard dit qu'on pourra prendre les maisons qui sont dans Villefranche pour aller construire en préfabriqué les maisons à Romorantin. Il explique tout ça. Juste un petit problème, c'est qu'entre Villefranche et Romorantin, il y a 40 mètres de dénivelé. Et alors, comment faire ? Léonard, on a une page entière du Codex Arundel qui décrit ce qui doit être fait. Et alors, on peut, là, malheureusement, il ne donne pas la solution, mais ici, je vous montre quelque chose qui date de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, hein, on est à l'époque de Sully, hein, c'est renier les sept écluses. Et là, on a la remontée, enfin la descente plus exactement d'ailleurs dans ce sens-là, d'un train d'écluses qui permet de compenser un dénivelé de 30 mètres. Donc, le travail, oui, en l'occurrence, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais disons que Léonard imagine, pour lui, le canal de Villefranche à Romorantin est absolument clé. Pourquoi ? Parce que c'est par ce canal qu'il entend amener le matériau pour la construction du palais de Romorantin. Alors, si on va encore plus loin, mais vous voyez sur ce schéma, on voit la Saudre et le Cher, et Léonard trace ce grand trait au bout duquel il met Lyonnais, Lyon. Hein, donc, à terme, il y a un grand projet qui est le projet de relier tout ça jusqu'à Lyon. Alors, il y a des travaux de calcul sur lesquels déplacer les maisons par Pénis, j'en ai parlé. Il explique que l'énergie hydraulique en surplomb va actionner des moulins. Et là, c'est très, très détaillé. Hein. 4 moulins à l'entrée, 4 moulins à la sortie, etc. etc. Je passe. Alors, à quoi pouvaient servir les moulins à Romorantin ? Bon, il y avait une grosse activité de foulage de la laine à Romorantin depuis le XIVe siècle au moins. Et il est assez probable que Léonard ait imaginé là toute une série de machines textiles. Pour me faire plaisir, j'ai mis ces reconstitutions 3D de machines textiles de Léonard de Vinci, machines textiles imaginées pour Milan. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été si... Bon.
C'est dommage pour le film, tu peux peut-être nous le mettre en 3D pendant les questions.
Ouais, je vais essayer,
ouais. Ça serait
simple. Voilà. Merci. Oui, j'avais une question à propos des tourbillons, là, tu as parlé au début, d'Alberti et de Léonard. C'est vraiment un fantasme qui va depuis le XIIIe siècle, parce que c'est l'impetus. Quelle est la puissance qu'il y a dans la flèche qui s'en va. Donc je pense que c'est... Et qui sera résolu par Galilée, qui montrera que finalement, le tourbillon ne fait que réduire l'énergie, non pas la produire.
Cette question de l'impetus... Ah zut, une valide password. Excusez-moi, juste je fais ça. Cette question de l'impetus, effectivement, c'est quelque chose qui... on est dans la physique aristotélicienne. Hein, la question de base, c'est qu'est-ce qui se passe quand une pierre a lâché la main qui la lance ? Quelle est oubliez tout ce que vous savez sur l'inertie. Hein, qu'est-ce qui fait que la pierre continue d'avancer ? Qu'est-ce qui fait qu'elle sait qu'elle a été lancée ? Et cette question de l'impetus, Paul a sans doute enseigné ça. Cette question de l'impetus, elle est extrêmement importante dans les universités médiévales. Ouais. Léonard planche là-dessus. Et l'eau, pour Léonard, sert à modéliser des expérimentations sur cette question de l'impetus. Par exemple, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais par exemple, à un moment, pour savoir ce qui se passe quand un projectile est lancé, il remplit un aquarium. C'est moi qui dis aquarium, mais un truc en verre. Plein d'eau. Il lance dedans un mobile et il met de la chapelure du Panegratul Giotto pour voir ce que ça fait. Donc, effectivement, la question... Parce que chez Aristote, il y avait cette fameuse théorie de l'antipéristase qui disait que qu'est-ce qui faisait que le projectile continuait à avancer, c'est qu'il créait, en passant dans l'air ou dans le milieu dans lequel il était, il produisait des tourbillons, donc on retrouve cette théorie des tourbillons, à l'avant, qui passait derrière et poussait le truc. Alors Léonard y croit pendant tout le début de sa carrière, et vers 1500, il a quelques doutes. Et il crée, par exemple, une expérience où il est toujours question d'eau. Il prend une outre pleine d'eau et il tire dedans avec une escopette. Il se trouve que la balle va aller de l'autre côté de l'outre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à un moment, la balle est passée dans de l'eau. Et donc, il n'y avait plus d'air pour la poutre. Donc il dit, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec Aristote. Et il se dit, est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer qu'il y a une analogie entre l'air et l'eau ? Et c'est là qu'il va monter toute cette série d'expériences sur les tourbillons, etc. Ce qui est remarquable dans le travail de Léonard sur les tourbillons, qui n'est pas... Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Il y a un ingénieur américain, j'ai le texte, si ça t'intéresse, qui a essayé de produire un truc, mais très art science moderne. Mais ce qui est, je trouve, le plus fabuleux chez Léonard, c'est l'œil. C'est-à-dire qu'il voit des choses... qu'aujourd'hui des théoriciens de la complexité comprennent autrement. Pardon, j'ai été trop long dans ma réponse, mais cette question de l'impetus est fondamentale et extrêmement intéressante.
Ouais. La deuxième question que j'avais, c'était à propos de, enfin de ce mouvement alternatif dont tu parles, là, donc qui est les créateurs, qui est en fait le système de Biel-Manivelle. C'est-à-dire cette transformation d'un mouvement alternatif en
c'est
mouvement...
C'est un genre de Biel-Manivelle, voilà.
Mais qu'effectivement, qui apparaît qu'au 15e, 16e siècle, enfin, on ne sait pas trop qui. En tout cas, ça n'existe pas avant. Le système.
Voilà, il y a du
dans
débat.
Dans l'Antiquité, le moulin à pierre qui a été fouillé par Seigne est fondé sur l'utilisation du système Biel-Manivelle. Donc, il n'a rien inventé. Donc. Et ça, c'est... j'aurais une question à te poser là-dessus. Oui. Justement, tu dis que c'est abandonné, ce système-là. Est-ce que ce n'est pas lié à une question de matériaux ?
Possible.
Parce que pour faire ce type d'engrenage, de crémaillère et d'engrenage, il faut des matériaux résistants. Si tu les fais en bois, tu peux faire des expériences. Mais si tu veux une machine qui marche, il faut des matériaux. Donc, il faut du métal. Du métal fondu, parce que tu ne vas pas forger ces pièces-là. C'est-à-dire qu'il faut attendre fin 16e qu'on ait un large usage du bronze, parce qu'il y a une véritable révolution du cuivre au 16e siècle, ou, pour Newcomen, la fonte. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. C'est, l'abandon ne tient pas au fait que Léonard n'ait pas eu de génie, mais tient au fait qu'il n'avait pas à sa disposition un certain nombre de matériaux.
Écoute, voilà ce que c'est vraiment... Je te remercie de cet éclairage-là. Faudrait regarder comment est faite la pompe de Morris à Londres, Peter Morris. On est en 1590, là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit entièrement en métal. Mais même les engrenages.
Que l'engrenage, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
En fait, là, on n'en a qu'une trace de cette pompe de Morris. Elle est chez un ingénieur qui s'appelle Bate, que le jeune Newton a beaucoup lu, et qui décrit la pompe de Morris qu'il a vue. Donc, on a vraiment une approche assez indirecte. Mais visiblement, fin 16e, ce qui donnerait raison d'ailleurs, fin 16e en Angleterre, on fabrique vraiment cette pompe-là. Donc, ça correspond à la chronologie que tu décris. Ouais.
L'engrenage, qu'il soit fonte, bronze ou bois, il y a de tels efforts qui sont faits dessus que ça casse facilement. Donc, il y a un entretien permanent qu'il faut. Ça se détruit très facilement. À propos de ces pompes et de tous ces ouvrages hydrauliques, il y a Bernard Palissy qui dit qu'effectivement, tous ces ouvrages coûtent la peau des fesses aux propriétaires parce qu'il faut qu'ils entretiennent en permanence donc un mécanicien compte tenu des dégradations importantes. Et j'avais un troisième point à propos de l'Arnaud, justement, qui joue un rôle... Fin 15e, 16e siècle, qui joue un rôle extrêmement important, parce que y a, à propos de la régulation de l'Arnaud, il y a Galilée qui en parle, il y a Castelli, il y a Torricelli, etc. Et visiblement, l'Arnaud, c'est un laboratoire, des ponts et chaussées, quoi, je veux dire. Ouais.
Tout à fait. Là, on peut suivre le truc. Y a d'ailleurs des livres publiés récemment, justement, sur l'Arnaud et autour d'Empoli, etc. Mais... Oui, et visiblement, c'est ancien. C'est ancien, voilà, alors justement, petit film là-dessus, en espérant que c'est le bon. Voilà, c'est pas le bon, évidemment. Euh, pardon.
Alors ce canal expérimental, vous le placez, il est placé, vous le protégez.
Les Gualchieri de Rémolet. Ah oui, bah alors écoute, bon, pour l'instant c'est une hypothèse, hein, mais quand même il y a de bonnes chances que. Bah, écoute, en tout cas la commune de Romorantin maintenant est très au courant, et voilà. Et le maire de Romorantin et le futur maire de Romorantin, puisqu'on n'a plus le droit de cumuler des charges maintenant, sont très avertis du problème.
C'est la Fondation du patrimoine, vous tenez de l'argent là.
Ah oui.
Ils sont pleins aux as.
Ce qui serait intéressant, justement, là, tu vois un certain nombre de cartes de Léonard de Vinci. Ça, c'est pour l'Adda, hein, la rivière Adda. Alors, tout ça, donc, ce sont des vidéos que nous avons faites pour l'exposition de Romorantin et que nous avions faites auparavant. Excusez-moi, là, c'est la version en anglais pour le musée de Vinci, que nous avons faites avec Roman Onani et Alexandre Neuval. Voilà. Mais. Voilà, là, vous voyez les dessins de Léonard de Vinci sur l'Adda. Mais on voit que ce travail d'ingénieur hydraulicien a été très important. Ce qu'on pense, c'est que quand Louise de Savoie et François Ier invitent Léonard de Vinci à Romorantin, c'est probablement aussi en tant qu'ingénieur hydraulicien. Ici, vous voyez les tricornilles et justement le passage, je vous disais, assez compliqué. Là, vous comprenez que hein, la navigation des péniches, ce n'est pas simple. Et vous allez voir la solution de Léonard, elle est incroyablement osée.
J'ai une question à propos de l'Arnaud. Et qu'en est-il de la dérivation du Tibre vers l'Arnaud qui avait été envisagée dès l'époque romaine?
Alors, pour ce que je sais de cette période-là, la seule chose que Léonard creuse, si j'ose dire, c'est la question des marais pontins. Quand il est au service de Julien de Médicis, qui est... celui qui commande l'armée pontificale. L'idée, c'est entre Rome et Piombino, plus ou moins. Alors, j'avais écrit des choses là-dessus, mais tout un système gravitique pour assécher les marais pontins. Rien sur le Tibre pour Léonard. Voilà, vous voyez la solution de Léonard. On s'appuie sur les rochers et on creuse à côté. Un canal qui va passer en souterrain. Enfin, alors même cette la porte contre avec équipée d'un contrepoids que vous avez là est aussi dessinée par Léonard de Vinci. Voilà, c'est une écluse à sas et mais sa particularité est de fonctionner en souterrain.
Non,
parce que mais pour une raison simple, c'est que en fait il faut faire fonctionner le musée. Si on le met en ligne, il n'y a plus du tout de raison d'aller au musée. Si tu veux. Voilà, donc et c'est une des nombreuses reconstitutions 3D. Ce qu'on pense, c'est que la 3D permet d'expliquer assez facilement des choses assez complexes. Alors ça, c'est pas le plus complexe, mais quand on entre, par exemple, dans le métier à tisser à ruban ou les fileuses mécaniques, là, c'est ou la fonderie. Et là, on est dans les choses qui t'intéressent. La fonderie de canon, telle qu'elle est décrite par Léonard, quand les étapes sont extrêmement nombreuses, la 3D est vraiment bienvenue. Voilà. Voilà. On n'a pas essayé de reconstituer de façon... il ne s'agissait pas de faire quelque chose qui ressemble au réel. Hein. L'idée, c'est le principe qu'on veut illustrer ici, évidemment. Et merci aux questions qui sont fort éclairantes. Ça c'est. Alors ça, oui, mais qui est passé maintenant.
Donc qui va nous parler des eaux médiévales, des énergies.
Tu veux le manche ou tu...